Il y a le conseil municipal, donc je commence par l'appel. Donc Isabelle Cousard, présente. Alain Galabiala, Laurence Rousseau,
présente.
Serge Boulet,
présente.
Claudine Moya, alors elle est absente et elle m'a donné son pouvoir. Sylvie Émile,
oui, présente.
Mylène Julliet,
c'est ça qu'il faut dire.
Absente. Laurent Mailloux, Anne Jiménez,
présent.
Laurent Moulin,
présent.
Françoise Hazard,
présent.
Romain Demoustal,
présent.
Béatrice Tayoni-Closter,
présent.
Jean-Paul Massat,
présent.
Béatrice Poncic,
présent.
Joanne Servigna, absent. Cécile Portinos, absente. François Deissy,
présent.
Et Gilles Chicot,
présent.
Merci. Donc on va faire tourner les.
Les serviettes.
Et donc vous avez reçu l'ordre du jour, il est assez dense ce soir. Est-ce qu'il y a des observations sur ces points à l'ordre du jour? S'il n'y aura pas, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il est approuvé à l'unanimité. Il nous faut un secrétaire de séance. Qui veut bien le faire pour on peut changer un peu.
Peut-être.
Oui, on peut
changer, mais
c'est
une des. Oui, ok. C'est pas un travail très harassant, hein, quand même, parce que c'est Nathalie qui fait le. Voilà. Bon, bah, Françoise, merci beaucoup. Et puis, donc, il y a le compte-rendu de la séance du 18 février qui vous a été transmis. Est-ce qu'il y a eu des observations? Non, donc il est adopté à l'unanimité. Alors, qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Donc, il est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, on va commencer avec les points traditionnellement mis à l'ordre du jour pour la vote du compte administratif 2018 et puis compte de gestion, affectation de résultats, subvention. C'est la subvention 2019. Et puis le vote du budget, le vote des taux d'imposition. Donc là, c'est un gros paquet. Donc je donne la parole à Laurence.
Oui, je suis une matrice de présence. Attends, pardon, excuse-moi.
Il y en a une deuxième.
Alors, avant d'approuver le compte de gestion dressé par Madame le receveur, vous allez avoir un certain nombre de graphiques. Déjà, on va vous présenter les résultats 2018 et après vont s'en suivre des graphiques également qu'on pourra commenter ensemble et que vous connaissez déjà. Alors, on vous a remis la présentation. Je pense que vous devez tous la voir devant vous. C'est ce document-là. Voilà, c'est le déroulé en fait tout simplement de ce qui se passe sur en projection. Alors, pour les résultats 2018, en fonctionnement, en dépenses, nous avons compte arrêté 1 725 101,88 €. En recettes, nous avons 1 749 456,94 €. Donc nous avons un résultat d'exercice de 24 347,06 €. Au niveau de l'investissement, les dépenses se montent à 583 363,66 €. Et au niveau des recettes, 322 724,36 €. Et nous avons un résultat d'exercice négatif de moins 260 579,30 €. Donc nous allons voir les différents graphiques. Ça c'est pour le fonctionnement. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour les charges à caractère général, on a enregistré quand même, on amorce une baisse. Une légère remontée, puis il y a des dépenses un tout petit peu imprévues, notamment au niveau. C'est-à-dire qu'on a, on vous l'avait présenté ça, on avait des dépenses qu'on aurait dû payer en 2018, mais qui ont été payées en 2019. Marie, c'est ça. Donc du coup, ça nous a fait un petit peu augmenter nos charges à caractère général. Au niveau des charges de personnel, c'est la ligne qui est tout à fait en rouge, enfin que vous avez sur le document qui est en rouge. On a une certaine stabilité depuis 2017, on va dire, mais on a eu quand même des départs à la retraite, certes, mais on a eu des maladies, on a eu des congés maladie, on a eu les CAE. Mais ça c'était depuis 2017, donc il a fallu en prendre des CDD à la place. Et là, 2018, c'est une certaine stabilité, on peut dire, par rapport aux années précédentes, tout petit peu, non, il n'y a pas eu un gros dépensé.
Tu peux nous rappeler pourquoi de 2013 à maintenant, en fait, on a en gros 50% de plus de dépenses de charges personnelles.
Alors, de 2013 à 2014.
Ouais, en fait, 2014. On a deux plateaux.
Oui, mais on voit bien effectivement. Je suis d'accord. Alors, on a eu des. D'abord, en 2014, on a déjà eu deux arrêts maladie qui ont vraiment compté. C'est ça, de septembre à peu près. Et on a eu des embauches aussi, donc d'une DGS. Entre autres. Mais c'est pas ce montant-là, ça explique pas ce. Ça,
non, non, c'est surtout l'étape. Ce
et après, on a eu l'étape.
Qui ont été initiées en 2013 et qui se sont répercutées sur le budget 2014.
Donc il a fallu embaucher, effectivement, des.
Et depuis, on n'arrive pas. On maintient, mais on a du mal à redescendre.
Mais il y a eu plusieurs.
Et il y a aussi une grosse augmentation. Alors. Il y a une grosse augmentation en dépenses, mais il y a aussi des recettes derrière. Donc, c'est pas le. Oui. L'impact n'est pas. Mais pas autant. Et il y a les recrutements TAP, un poste de créer de plus, c'est sûr, dans la fonction de fonctionnaire, d'un poste de fonctionnaire en plus. Et puis, comme l'a dit Laurence, beaucoup d'arrêts maladie importants. Qu'on a petit à petit.
Qu'on est obligé de remplacer sur des postes, qu'on a été obligé de remplacer par des CDD, qui coûtent bien plus cher que des contrats de
fonctionnement. On lit mal les chiffres, mais les recettes de dépenses de fonctionnement, c'est 948 en 2000, la dernière année. Là.
En 2018, c'est 930 en totalité.
Oui, vous comparez par rapport aux chiffres de.
Pour le personnel.
Oui.
Bah 934, 371.
Et on était et en recette, on est à 905, 950.
Donc les impôts et taxes.
Oui, nous en recette, 950.
Impôts et taxes. Oui, c'est pas pareil.
D'accord. Non, c'est les mêmes chiffres, c'est pas pareil.
Oui, mais c'est pas pareil. Oui. C'est pas pareil. Voilà. Sinon, on peut quand même se rendre compte qu'on a stabilisé quand même les charges à caractère général, même on les a baissées, ce qui veut dire qu'on a réduit certains frais. Notamment, on a vu électricité, gaz, c'est principalement ce poste-là, la téléphonie aussi, où on a fait de grosses économies.
On peut ajouter, Laurence, sur les charges de gestion courante en orange. On a diminué de plus de 100 000 euros depuis 2012-2013. Là-dedans, il y a par exemple notamment une grosse part des indemnités des élus qui ne sont pas perçues. Et puis d'autres.
C'est principalement ça, c'est les indemnités des élus. Parce que sur ce compte-là, tu as les indemnités des élus et tu as les subventions aux associations qui, elles, justement, sont restées constantes. Ouais. Parce qu'effectivement, voilà, les indemnités, il y a beaucoup d'indemnités d'élus qui ne sont plus versées. Il y a des élus qui ont renoncé tout simplement à leur indemnité. Notamment Madame Lamère. Après, au niveau des évolutions des recettes. Tu voulais rajouter un chiffre un peu ? Non ? Là, on en est aux recettes. Donc, l'évolution des recettes. Donc, une grosse chute au niveau de la DGF, des dotations. De toute façon, on le constate chaque année. Et cette année, ça a encore baissé.
Ça a encore baissé cette année, hein ?
Oui, ça a encore baissé cette année.
Il faut bien savoir qu'il y a le discours au niveau national et de dire que les DGF sont stabilisées, mais en réalité, au gré des critères d'écrêtement, à Murviel, ça continue à baisser.
Et d'ailleurs, dans le slide suivant, Nathalie nous a fait un... Voilà, au niveau du focus, c'est-à-dire que depuis 2014, on a perdu en cumulé plus de 500 000 euros en DGF. Donc ça, c'est énorme. Et on le voit bien, ça s'est très bien représenté après sur le graphique, enfin sur le graphique que nous a présenté Nathalie et Marie.
Et juste, petit ajout, Laurence,
non, mais
si le gouvernement continue à baisser la DGF à Murviel, c'est parce qu'il estime que notre commune a un potentiel fiscal suffisamment élevé pour ne pas continuer, pour ne pas maintenir la DGF et continuer à la baisser.
Ce qui veut dire implicitement qu'il faut augmenter les impôts.
Nous incite.
En gros, c'est ça, on a perdu, je crois que c'était ça, 9 000 euros ou 8 000 euros, Marie, tu me confies ? Par rapport justement à cette nouvelle disposition.
Mm-hmm. C'était ça.
Voilà, donc une incitation à augmenter les impôts. Les focus, alors les ratios, donc ils ont été calculés sur une population de 1928 habitants. Donc les dépenses réelles de fonctionnement représentent 904,76 euros par habitant, alors que la moyenne nationale pour une commune de même strate est de 628 euros. Les recettes réelles de fonctionnement se montent à 907,39 euros par habitant, pour une moyenne pour la même strate représentant 768 euros. Notre encours de la dette est d'un montant de 538 euros par habitant, alors que la moyenne est un peu plus élevée, est de 594 euros. Et la DGF est de 53,18 euros par habitant, alors que la moyenne est de 158 euros. Alors le 158 euros, ce sont pour les villes qui ne font pas partie d'une métropole.
La métropole est un des critères qui rentre dans la...
Les communautés de communes touchent bien plus de DGF.
Il y a une péréquation.
Une dotation plus importante.
Un nombre d'habitants similaire.
Oui.
Ça, c'est pour les communes de moins de 2700.
Oui, donc il y a deux éléments. Il y a, entre autres, il y a l'appartenance à une métropole, plus le potentiel fiscal.
Donc on est quand même loin de la moyenne. Hein.
Un budget à 900 euros par habitant par rapport à 628.
C'est sur le plateau.
Ah d'accord.
Donc c'est pour ça que ça...
Sans la cession des plateaux.
Sans la cession, on est à 700. Donc on est moins élevé que ce qu'on avait dépensé en 2017. Donc à 738.
Oui. Donc il faut bien réexpliquer la section des platanes. Voilà. Réexplique, Nathalie.
En fait, en 2018, on a vendu le local des platanes. On a eu une moins-value de 80 et quelques mille euros et on a vendu 120 000. Ce qui fait qu'on a inscrit dans nos budgets, en opération budgétaire, en dépenses et en recettes, 202 000 euros. Donc ces 202 000 euros sont comptés dans les recettes réelles de fonctionnement. C'est pour ça qu'on a un budget à 904 euros par habitant. Mmh. Il faut le diminuer.
D'autant. Proportionnellement.
Proportionnellement.
Et donc, si on enlève la cession du local, on tombe à combien à peu près
à la louche dans les 700.
700.
Je vais pas le toucher.
D'accord.
Okay. Donc, on va revoir les investissements maintenant. La slide suivante. Alors, ça, ce sont les investissements qui ont été réalisés en 2018. Alors, vous voyez la liste au niveau donc, des bâtiments communaux, on en a eu pour 19 066,33 euros, avec une subvention de 9 400 euros. Donc, il y a eu la rénovation, peinture des bâtiments communaux, des petits travaux, donc ça, c'est normal, enfin, du courant, hein. Les achats d'ordinateurs, les achats d'outillage pour les services techniques, des différents travaux informatiques, des achats de tables pour les salles de location, du câblage, la fibre, achat de drapeaux, achat de télé pour la médiathèque, des renouvellements clés passe mairie. Alors si on le met, c'est parce qu'en fait, une clé, je crois, coûte 70 euros à peu près. Donc c'est énorme quand on change 10 passes, c'est 700 euros. Et on a rénové la cuisine de la mairie qui s'est finie là il y a 15 jours. Après, au niveau de la sécurité, donc c'était les alarmes du groupe scolaire et de la médiathèque, le logiciel pour la police, et un achat de défibrillateur. C'est plutôt l'entretien, non ? On n'a pas changé de défibrillateur, c'était l'entretien.
L'entretien.
Ah, c'est ça, c'est l'entretien. Oui, hein, qui coûtait assez cher. Donc, on en a eu pour 16 045,76 €, donc sans subvention. Et des travaux sur l'église, principalement sur la mise en conformité électrique, qui était vraiment obsolète, et des travaux sur le clocher. Voilà. Après, on a eu des travaux sur le groupe scolaire, donc vous voyez la liste, pour un montant de 23 817 €. Donc ça va de fixation des chenaux aux pluies, à des abattages d'arbres qui étaient dangereux, et une réfection de la toiture. Au niveau des espaces publics, on a acheté un cabanon à livres que vous voyez juste à l'angle, là où se trouvent les commerces, Jérémy. On a acheté des vitrines, on a câblé, on a fait un câblage par Bouygues. Au niveau de la voirie, suite à une petite tempête, enfin c'était pas une tempête, c'était des intempéries l'année dernière, hein, on a battu des cyprès sur Gesselot et on a réparé une barrière. Après, on a aménagé l'aire de jeu. Fini. Et on a fait fini d'aménager l'aire de jeu et on a posé un jeu pour enfants. Au niveau du cœur du village, on a fait une étude avec des plans, enfin voilà une étude pour 13 000 €. Les équipements sportifs, donc c'est principalement sur, les, sur le stade de foot, pour 2 750 €. Le cimetière, 4 693 €, donc on a mis du gravier, on a réaménagé les allées. Au niveau des logements communs, c'est principalement aussi sur la poste, hein, l'ancienne agence postale qui est devenue une agence immobilière, donc avec de l'électricité et de la climatisation. On a isolé un appartement communal et on a réparé, on a changé le cumulus du bar. Après la rénovation des anciens appartements des écoles, c'est le chantier d'insertion, on en a eu sur 2018 pour 30 150 €. Et on a eu déjà un premier acompte de subvention de 2 000 €. Après, il y a eu l'étude des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées pour 9 274 €. Et les quatre pilas, donc c'est l'installation du chevrier avec différents travaux sur la bergerie pour 23 560 €.
Alors, il faut peut-être préciser que ce n'est pas tout le budget d'investissement, c'est la partie travaux. Oui. À côté de ça, dans la section investissement, il y a l'attribution de compensation, le fonds concours, oui. Et les remboursements d'emprunt, etc. C'est vraiment la partie travaux.
Ça, c'est les travaux qui se font, enfin, qui ont été faits.
Ça, ce sont les graphiques des évolutions dans les dépenses d'investissement. Je ne sais pas si dans les chiffres on se voit. Si vous avez des questions, on peut passer. Après, donc, c'est au niveau des recettes. Là, c'est toujours très long. On attend souvent les recettes d'investissement, enfin les subventions. Oui, vous voulez dire quelque chose ?
On est trouvé, on ne savait pas si du coup...
On a globalement quand même une tendance à la baisse des investissements. Hein. Si on fait abstraction du
pic,
c'est-à-dire effectivement le nombre,
que tu en as un nombre d'ailleurs. Alors, nous allons passer au vote du compte de gestion.
Vous avez des questions ?
Oui, mais j'ai déjà demandé, les personnes ont dit. Je dis, est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Si quelqu'un avait des questions ? Non, pas plus que ça. Donc nous allons passer au vote du compte de gestion 2018. Là, vous allez savoir. Oui,
de quoi ?
Moi, je me demandais si c'était là le vote de gestion.
Non, c'est le compte administratif.
Alors. Donc le conseil municipal, c'est tout ça ? Donc après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion ainsi que l'état du passif, l'état des restes à recouvrer, l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. statuant sur l'ensemble des opérations effectuées au 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire. En deux, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, on va être amené à en délibérer. Donc je vais vous lire le compte de gestion 2018. Alors au niveau du fonctionnement, en dépenses, nous sommes à 1 725 109,88 €. En recettes, à 1 749 456,94 €. Donc nous avons un excédent de clôture de 24 347,06 €. Avec un excédent de clôture reporté de 165 960,83 €. Donc nous sommes à 190 307,83 €. Vous avez bien compris que sur les 165 960, on rajoute les 24 347 pour arriver à 190 307. Au niveau de l'investissement en dépenses, nous avons 583 363,66 €. En recettes, 322 784,36 €. Nous avons un déficit de clôture 2018 à moins 260 579 030 €. Nous avons un excédent de clôture reporté de 327 930,34 €, ce qui fait que nous sommes à plus 67 351,04 €. Donc ces chiffres-là sont reportés sur le résultat d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés qui sont faits par la trésorerie. Vous avez ça en page, c'est pas numéroté, mais vous l'avez après les graphiques de, après le graphique de l'évolution du résultat de clôture.
Donc là, on passe au vote.
Après, là, vote.
Maintenant, sur le compte de gestion.
Oui. Oui. Ouais.
Donc, s'il n'y avait pas plus d'observations que ça sur le compte de gestion 2018, parce qu'après, on va passer au compte administratif. Et là, je vais pas sortir. Mais pour le compte de gestion, c'est moi qui reste. Donc, sur ce compte de gestion, est-ce qu'il y a des observations, des remarques? Et moi, j'en ferai une quand même. C'est qu'à l'issue de l'année 2018, le matelas, entre guillemets, en investissement est devenu très, très, très mince. On descend à 67 351 €. On va reporter pour l'investissement 2018. C'est bien traduit par les courbes qui sont en dessous. Hein, c'est que notre capacité d'épargne et d'excédent pour alimenter l'investissement est devenue extrêmement faible. Donc, on passe au vote du compte de gestion, s'il n'y a pas plus de remarques. Qui est contre son approbation? Qui s'abstient? Donc, il est adopté à l'unanimité. Merci.
Du coup, je sors. Après, voilà, oui, nous allons passer au vote du compte administratif et c'est Alain qui le présente.
Donc, le compte administratif, si je ne me trompe pas, c'est le compte de gestion vérifié et validé par. On doit simplement constater qu'il y a bien une compatibilité entre ce que nous, on a établi en termes de compte de gestion et ce que la trésorerie a établi.
C'est d'ailleurs les chiffres que j'ai dit juste avant, voilà.
Les chiffres du compte de gestion sont les mêmes.
Vous avez le document de la trésorerie.
Donc, je peux dire qu'on constate pour la comptabilité principale, que pour chacune des comptabilités annexes, l'identité de valeur et l'indication du compte de gestion relative au report à nouveau aux aides de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement, au bilan de sortie, au débit et au crédit de sortie budgétaire, aux différents comptes sont compatibles avec entre eux le compte de gestion et le compte administratif. Donc, rien ne nous empêche de voter, d'arrêter sur l'état définitif. Et donc, comment ?
Tu peux annoncer les chiffres ?
Oui, d'accord. Tu annonces les chiffres ?
Tu voulais, oui.
C'est les mêmes que tu lui conduis. Oui, c'est la donnée, donc. C'est pas la peine de le répéter.
On peut par chapitre, si vous voulez, comme ça vous dites au chapitre.
Oui, je veux.
C'est plus bénéfique, vous pouvez reprendre ça.
Ah, vous voulez reprendre ça? Ah, d'accord. Donc, on a un déficit d'investissement. On a un excédent de fonctionnement 2018, vous aviez vu, de 347. Et on reporte un excédent de l'exercice antérieur. 965 960. Ce qui nous donne un résultat de clôture en fonctionnement de 193.
C'est le, voilà.
En investissement, on a un déficit d'investissement pour 2018 de 300.
Donc de moins 260.
Un déficit de 300.
Non, non. Regarde, les chiffres sont derrière.
C'est un déficit de 300.
Oui, mais il n'est pas de 300. Il est moins 260, 579 30. Oh. Ah. Et après, on a un excédent de fonctionnement qui a été reporté.
Attendez. Un excédent, un déficit d'investissement.
Voilà, il est de moins 260.
Moins 260, voilà. 579 30.
Voilà.
On reporte l'accident de fonctionnement que l'on avait des années précédentes, y compris donc ce qui est là-haut. On arrive à un résultat de clôture de 67
571,04.
Qui est conforme avec, au centime près avec ce que la trésorerie a trouvé. Donc je vous propose. Donc je vous propose de le mettre au vote. Vous avez des observations? C'est pas suffisamment clair, peut-être. Pas d'observation? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le compte administratif est adopté à l'unanimité. Donc, nous avons adopté à l'unanimité.
Alors, nous allons affecter le résultat 2018. Donc, il est nécessaire, au vu des éléments qui ont été votés, qu'on vous a présentés, donc il est nécessaire d'affecter le résultat de l'exercice comptable de l'année 2018. Alors, considérant que le compte administratif 2018 a été arrêté avec un excédent de fonctionnement de 190 307,89 €, un excédent d'investissement 2018 de 67 351,04 €, statuant donc sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018, on vous propose l'affectation suivante. Donc sur les 190 307,89 €, on vous propose de mettre 140 307,89 € en section de fonctionnement sur le compte 002 en recette du budget primitif 2019 et d'affecter 50 000 € en section d'investissement au compte 1068 en recette du budget primitif 2019. Et par contre, on laisse les 67 351,04 € en section d'investissement au compte 001 en recette du budget primitif 2019. Donc, nous vous demandons de délibérer sur cette affectation.
Les observations? C'est des calculs qu'on fait. Hein. S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Qui est contre cette affectation de résultats proposée par Laurence? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci Laurence.
On passe au budget des subventions aux associations. Vous savez, c'est un budget qui est à part, qui est voté à part, qui sera remis après en préfecture. Alors, on vous propose le vote des subventions selon la liste présentée ci-dessous.
On va voir la diapositive.
Les subventions.
Les subventions.
Alors, Donc tous les dossiers ont été étudiés. Donc les ardus pour 2019, la subvention se met à 1 000 euros. Pour internaute, la subvention se monte à 3 000 euros. Pour l'APEM, 400 euros. Pour les chasseurs et propriétaires de Murviel, 400 euros. Pour art mixte, 3 200 euros. Pour la gymnastique volontaire murvielloise, 400 euros. Pour le club des aînés, 400 euros. Pour le comité des fêtes, 3 000 euros. Pour le gramme, 300 euros. Pour l'association Les Cabrioles, 37 612 euros. Pour l'association Accompte, 1 500 euros.
Tu peux expliquer Accompte.
L'association Accompte, j'explique après. D'accord. Et pour l'école primaire, pour des projets pédagogiques, 685 euros. Alors l'association Accompte, ça a été une association, on a fait appel à eux depuis l'année dernière. Et c'est eux qui nous ont fait le week-end des vacances de février, le samedi et le dimanche. Le week-end d'animation, si vous étiez là, on en a parlé. C'était des jeunes, c'est une association qui dépend de l'université Paul Valéry. Ce sont des étudiants qui étaient en master de valorisation du patrimoine et qui nous ont fait un week-end, un beau week-end de présentation de Murviel. Ils nous ont donné des jeux. On a Murvielopoli, qui est pour nous. On a d'autres jeux. On a une grande table avec des jeux en 3D. Voilà. On a surtout la Time Capsule. Donc, c'est-à-dire cette grande cantine où beaucoup de Murviellois, parce qu'il y a eu plus de 100 objets quand même qui ont été déposés et qui ont été enterrés à l'esplanade des droits de l'homme. On doit finaliser un petit peu la fermeture parce qu'il y a une plaque qui signale l'événement, enfin qui devra signaler l'événement. Et il y a eu beaucoup de retombées médiatiques un peu, parce qu'on en a parlé à FR3. Je crois, Isabelle, tu as été aussi un petit peu interviewée là-dessus. Il y a eu des articles un peu dans les journaux. Voilà. On a passé un week-end bien sympathique, en plus, le temps était avec nous. Donc voilà donc, pour le vote de l'attribution des subventions aux associations. Donc nous devons en délibérer.
On peut peut-être ajouter, Laurence, que la somme pour les associations murvielloises, enfin, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 9 premières, là.
Oui.
Le total est équivalent à ce qu'on verse les autres années.
12 000, un tout petit peu moins. Il est à 12 100 euros parce qu'on a gardé une réserve pour une subvention qui nous a été demandée au dernier moment, hors clôture. Hors clôture, en fait, des dossiers, c'est pour l'association, enfin pour le CRU Saint-Georges. Et ça, on le votera au mois de mai, mais on a gardé l'enveloppe pour le voter. Enfin, en mai ou en juin, enfin, au prochain conseil municipal, on va dire. Voilà.
Et peut-être une explication pour les écoles, parce que habituellement on ne vote pas de subvention pour les écoles.
Mais là, parce que d'habitude, c'est dans le montant qui se trouve, si tu veux, au niveau du montant qu'on donne, la dotation aux écoles. Mais comme là, on doit le verser à la coopérative, c'était toute une usine à gaz, parce qu'en fait, il fallait que chaque fois que l'école demande au prestataire de faire une facture au nom de la mairie, donc ils refaisaient, on perdait du temps. Alors que si on leur donne cette enveloppe qui correspond finalement aux 5 euros par enfant, c'est beaucoup plus simple, on le donne à la coopérative et eux, ils gèrent directement, l'école gère directement pour la coopérative.
C'est un jeu d'écriture, en fait.
En lien direct avec les différents fournisseurs.
Et ça peut être dans des projets pédagogiques pour l'année scolaire en cours ou voir celle qui démarre en septembre.
C'est de septembre à... C'est pour septembre, là, c'est pour l'année...
2019,
oui, oui.
Donc,
c'est civil.
C'est civil, c'est l'année civile. Hein.
Je veux dire, c'est des projets pédagogiques consommés, entre guillemets, si tu veux, pour l'année en cours, scolaire en cours. Oui.
Et c'est la même chose.
On l'inscrit au budget 2019, mais ça va être
utilisé avant septembre, avant fin juin, oui, voilà. 2019. Non. Et si ?
Dans l'année 2019.
Dans l'année ?
Non.
Ils peuvent le faire en septembre.
Oui, sauf qu'ils le font toujours avant septembre.
Parce que ça veut dire
qu'il y a
déjà
des projets
précis.
On est à cheval, les écoles.
Oui, on est à cheval entre les deux.
Et donc, c'est calé sur le nombre d'enfants, c'est ça ?
Oui.
Donc, là, tous les ans, c'est différent.
C'est 5 euros. C'est 5 euros par enfant. Donc, ça peut fluctuer en fonction
du. Et l'année, on avait versé comment ?
665.
Non, pareil, c'était le même. C'est la deuxième année.
C'est la deuxième année. Ça fait 2 ans, ça fait la deuxième année qu'on le fait.
Et c'était 665 l'année dernière.
Oui.
Je pense que pour plus de précision, il faut marquer coopérative école au lieu de école parce que
ouais.
On ne finance pas les écoles.
Oui, c'est bon,
la coopérative. Il faudrait mettre coopérative. Marie. Ouais,
pourquoi c'est dans les associations.
Parce que la coopérative de l'école, c'est une association. Et c'est, tu sais, c'est la M14, c'est les règles, c'est, ça fait partie des associations.
C'est une subvention. Mais ça reste dans l'enveloppe qu'on avait décidée. Voilà, donc... Donc, est-ce qu'il y a des observations sur ces informations, Jean-Paul ?
Alors, moi, je ne prendrai pas part au vote, hein, comme tous les ans.
D'accord.
Voilà. Alors, moi, j'ai de nombreuses questions sur ce budget aux associations, notamment sur l'association d'Internet. On a commencé le conseil municipal en disant qu'on était sur une année très compliquée en termes de budget. Donc là, pour moi, une grosse point d'interrogation sur ce montant, sur cette association, pardon, notamment sur le fond et sur la forme. Alors, je vais commencer par le fond, et je terminerai, si ça ne vous gêne pas, sur la forme. Quel est le projet intercommunal qui justifierait une subvention de cette hauteur, puisque l'association perd cette année encore des adhérents, augmente ses tarifs pour les enfants, et ne participe plus au temps d'activité périscolaire.
Le projet, c'est une école de musique, intercommunale avec Saint-Georges, La Vérune, Fabrègues, Saussan, Murviel et Pignan. Donc déjà, c'est offrir de la musique, enfin c'est offrir un enseignement musical à tous ces enfants-là.
Oui, avec une adhésion, bon, je répète chaque année, à 500 euros par
mois,
on passe sur une échelle qui augmente encore cette année ces tarifs, qui avait pourtant...
Non, les tarifs ne sont pas augmentés cette année. Les tarifs sont augmentés cette année pour les villages qui ne participent, qui ne donnent pas de subventions.
Enfin,
bah oui, non, ben voilà.
Autant pour moi, ça ne change rien, on perd encore des adhérents. Participe plus au TAP, ne fait aucune activité gratuite sur Marvel. Le calendrier des activités, c'est une audition, deux commémorations. Les commémorations sont facturées à la mairie. Est-ce qu'il est vraiment utile c'est un projet intercommunal clair et défini qui nous a jamais été présenté en conseil municipal d'allouer cette somme-là à cette association?
Il y a un projet clair et défini, je répète, c'est une école de musique intercommunale. Donc. Il faudrait que tu viennes
Sur ce sujet-là, on a déjà débattu chaque année de la même manière, avec les mêmes propos. Ce que je regrette, Romain, c'est que ce budget, à la fois de préparation du budget, enfin, global, on l'a vu trois fois. On a même fait un daube, d'ailleurs, pour les autres élus, qui n'y avait personne de présent. Donc, nous, ce budget-là, ça fait la troisième fois qu'on le voit, y compris la discussion autour des associations. Ce débat, on l'a eu X fois, c'est pour nous un enseignement musical porté par une association. Moi, je l'ai souvent comparé effectivement de la même manière à la crèche qui est portée par une association de parents, hein, qui représente un budget aussi. Nous, Muriel, on n'aurait jamais une école de musique municipale. 3 000 euros. Si nous, notre souhait en tant qu'élus, c'était effectivement que cet enseignement musical évolue vers plutôt une école de musique prise en charge ou du moins portée par la métropole. C'est toujours pas le cas, pourtant ça a été soulevé X fois. Et de toute façon, il faut savoir même si ça devient métropolitain, il y a d'autres communes que ça intéresse, des communes qui ont des écoles municipales, et c'est pas des budgets de 3 000 euros. Bon, on a expliqué, hein, même dans ce projet métropolitain, il y aurait une compensation, et je peux te dire que je pense pas que ce sera à 3 000 euros. Donc, pour l'instant, on a voté, même on a rediscuté tous ces sujets-là en réunion de MNA. Donc, si ta présence ne veut pas être à ce moment-là où tu fais partie de la majorité, je ne sais pas s'il faut qu'on ressoulève le débat chaque année de la même manière. Voilà, on a repris tous ces sujets-là, l'une par l'une, pour les associations.
J'avais un mot pour dire, m'excuser pour la non-présence à cette réunion. Si sur la forme. Si sur le fond, c'est bon pour passer à la forme. Je suis vraiment content, Laurence, que tu aies commencé la discussion pour dire que tous les dossiers avaient été étudiés et également que le CRU Saint-Georges, la subvention n'était pas votée ce soir parce qu'elle était arrivée hors clôture des dossiers.
Oui.
c'est ce que tu as avancé, et sur tout ce qu'on a mis en place, la charte de la vie associative, la demande de subvention, il est marqué noir sur blanc, en page 4 à 6, je ne m'abuse, que les dossiers sont à retourner obligatoirement avant le 15 janvier 2019. Et sur toutes les demandes de subvention que nous avons obtenues, toutes, en fait, Internet, c'est la seule qui est arrivée hors délai. Alors, à minima...
Non, c'est faux.
Non,
c'est faux. C'était... Non, là je m'assure, je contre ça. Les associations ont continué à envoyer également en janvier. Le Cru Saint-Georges, juste petite parenthèse, le Cru Saint-Georges, c'est différent, ça va être une association ponctuelle pour pouvoir soutenir une association qui valorise les grès de Montpellier, les Crus Saint-Georges. Tu peux me le confirmer, Françoise. Et si on ne l'a pas fait, c'est que parce que tout simplement, on n'avait pas, le courrier était effectivement, et le conseil était déjà, la réunion aux associations était déjà clôturée. Donc il faut être juste, mais on s'est tous entendus lors de la réunion où nous étions pratiquement tous présents, pour dire qu'effectivement, nous allions donner une subvention au Crus Saint-Georges. Et qui pouvait fort attendre, voilà, qui sera voté au prochain conseil municipal.
Pas de soucis sur le Cru Saint-Georges. Alors, sur la page 4, comme je te le disais, il est marqué aussi à retourner obligatoirement avant le 15 janvier. Et si tu veux, c'est ici, c'est la date de dépôt du dossier de demande de subvention de l'association d'Internet. Et c'est arrivé après. Donc,
le 16 janvier. Il nous l'avait envoyé par mail bien avant. Ça, c'est le courrier qui arrive.
C'est arrivé.
C'est le courrier qui arrive.
Et c'est ce qui
c'est le... Non, c'est le mail. Nous, on a un mail bien avant. Donc ça, c'est nul et non avenu. Point.
Ça, c'est la vision des choses.
Non. Un mail fait froid. Juridiquement, tu dois le savoir puisque tu as fait des études de droit. Un mail fait froid. Donc, toutes les associations nous envoyaient des mails. Et après, ça, c'est le courrier. C'est tout.
Oui.
Voilà. Et bien maintenant, c'est nul et non avenu. Point.
Maintenant, je vais donner la parole peut-être à Laurent.
Non, je veux dire là-dessus, au-delà de ça, quel que soit, même si c'est arrivé le 7. C'est un règlement que nous on a mis en place intérieur et il n'y a aucune illégalité à accepter un dossier après le 15 janvier. C'est un règlement interne, c'est nous qui avons mis ça.
Mais bien sûr.
Moi je peux vous le dire, l'année dernière je pense que j'ai pris aussi des dossiers hors 15 janvier avant que l'on fasse la réunion. Le principal c'est qu'on arrive aujourd'hui avec les bons termes et les bonnes décisions. Après ce qui s'est fait avant au niveau administratif. Je pense pas que
je suis d'accord avec toi, sauf que bon, principalement la majorité, la grande majorité, les ont envoyés par mail.
C'est
pas un sujet de discussion. C'est pas un sujet de discussion.
Pas sur un dossier administratif.
On va passer la parole à François.
Je pense qu'il y avait une commission qui s'est réunie pour statuer sur le dossier de subvention.
Pour analyser les bilans, pour tout regarder.
C'est pas le lieu de débat sur le détail des lettres. Je pense qu'il y a une commission pour ça, et c'est pas statué, mais pas tout le monde.
Tout à fait. Les discussions et les désaccords, on les a largement exprimés.
Mais François, le conseil municipal est un lieu de débat. J'expose mes remarques, ça sera sous les votes. Il n'y a pas de souci sur ça, je serai peut-être le seul à voter contre. Mais...
Non, Romain, le seul souci, c'est ce que disait Ben, c'est que tu en as fait 3 réunions, tu n'étais pas là. Donc c'est, pour nous, c'est difficile d'entendre ce soir, même si je t'accorde bien sûr que tu as le droit de dire ce que tu veux au conseil municipal et de voter contre. C'est pas ça, mais c'est que tu n'étais pas là. Alors, il faut bien, tu vois, on va pas reprendre, comme on le disait ce soir, sur un conseil municipal, les discussions.
J'ai envoyé un mail à toute l'équipe en disant...
Et il l'a vu ton mail, mais on veut dire que c'est... Enfin,
donc, tu sais pourquoi...
C'est ça, là, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que tu n'étais pas là. Alors, ramener ça à chaque fois au conseil municipal, moi, c'est je trouve ça un peu, peu décalé. Après, tu as le droit, il n'y a pas de souci, moi, je... Mais bon, je trouve ça décalé, quoi.
Oui, mais on est sur une association qui ne porte rien à l'arrière. Et c'est 18 personnes sur le
bilan. Il fallait le dire avant.
C'est une discussion qu'on a eu à faire notre tour les ans.
On doit voter.
Je le dis depuis 2015.
Mais tu pourras le redire.
Et on a discuté encore.
Mais
t'es
jamais là pour en discuter.
Pendant nos réunions, on a discuté encore pendant une demi-heure peut-être.
Je le redis sur des dossiers.
Oui, mais tu le redis qu'en conseil municipal, c'est qui est gênant.
On dirait l'année prochaine.
Bon, nous allons passer au vote.
C'est un petit point. Oui, parce que depuis qu'on s'est vu, internaute est venu à Meurville parce qu'il y a eu une audition de batterie le week-end dernier.
Oui.
C'est sympa. Donc, c'est moi, j'avais jamais vraiment discuté avec les membres du bureau. Il y a la présidente qui était là. On a discuté en marge. Et effectivement, ils apprécient le fait que Meurville, à son échelle, contribue financièrement. Après, ils reconnaissent eux-mêmes que c'est devenu extrêmement élitiste.
Bien sûr.
Puisque les tarifs sont complètement hors normes. Et qu'ils regrettent que certaines communes ne jouent pas le jeu. Laurent, que certaines communes ne jouent pas le jeu à la hauteur de ce qu'elles devraient faire. On n'a pas besoin de donner les noms, on le sait. Mm-hmm. Donc effectivement, ces communes-là vont être amenées à payer des tarifs différents. Ouais. Mais pour autant, même si Meurien joue le jeu, comme d'autres communes jouent le jeu, le modèle, il n'est pas pérenne.
Mais ça, ils le savent, c'est vrai.
Non, mais ça, ils le savent, c'est eux qui nous disent. Donc, ils le savent bien.
Ben, bien sûr.
Oui, mais ils attendent de nous, au-delà des 3 000 euros, ils attendent de nous une démarche politique volontariste de dire, ça a été dit, il faut mettre en place une intercommunalité sans la métropole, parce que la métropole, elle le fera pas, et puis c'est pas sa compétence. On a déjà une intercommunalité comme ça sur l'enfance et la jeunesse. Alors, par contre, c'est plus facile, parce que les moyens financiers qui sont alloués, ils sont beaucoup plus faibles. Donc, c'est pas du tout les mêmes enjeux pour nous. Okay. Mais ça va se jouer au niveau de l'engagement politique des communes qui sont autour d'Internaute et pas avec la métropole. La métropole, si elle vient, c'est un plus, si elle ne vient pas. Donc voilà, donc à mon avis, il faut, sur les mois qui nous restent, il faut, si on veut sauver cette association, c'est pas encore une fois les 3000 euros ni ce que va faire la Vérune ou les autres. C'est soit il y a une intercommunalité qui se crée et qui met les moyens qu'il faut y mettre, ou pour redescendre peut-être sur des tarifs.
Alors depuis deux ans avec Béatrice, nous assistons aux assemblées générales, on assiste à leur conseil d'administration, on est présent partout.
C'est ce qu'elle m'a dit.
Voilà, on est présent au niveau du conservatoire. Patrick Pouget, qui est le directeur du conservatoire régional, a pris le dossier en main. Il y a des réunions tous les quatre mois, les maires sont au courant. Il faut trouver une solution. Ça a l'air d'être un peu bloqué par la métropole aussi, il faut bien le reconnaître quand même. Il y a un point où voilà, ça n'avance pas. Et ils font tout leur possible pour essayer de se démener. Ils savent bien que payer 760 euros, c'est impossible. C'est pas normal quand au conservatoire, quand ton enfant est au conservatoire, tu payes 180 à 220 euros par mois. Donc par an, pardon. C'est pas normal, on est bien d'accord. Mais ils le savent. Et ce sont les premiers désolés, puisque tu as pu discuter avec eux. Oui, mais nous, on a sensibilisé à ça.
On a remué. La réunion qui a lieu ici en juin ou en mai 2017, c'est encore une fois les élus Muriel qu'on a provoqués en invitant les maires, Isabelle, tu peux le confirmer, et que étaient absents autour de la table certaines communes où des maires, effectivement, présents, se sont engagés à les interpeller. Et effectivement, Internaute n'a eu que la solution par rapport à certaines communes qui versent loin de la subvention proportionnelle à leur habitat.
Oui. Et même Juvignac avait proposé une solution, rappelle-toi. On avait eu une réunion qui était très importante à Juvignac, avec même M. Savy, qui était d'accord pour qu'effectivement Internaute continue à vivre. Mais c'est très compliqué, c'est pas si simple.
Il y a aussi tout un dossier technique.
Oui.
Quelle école, de quelle forme, et ça ne va pas être que les 6 communes de l'école d'Internaute.
Qui ne peuvent pas porter Internaute, c'est pas possible.
Au-delà d'une construction, je te dis d'autres communes qui ont d'autres structures différentes administrativement.
Mais si tu veux faciliter l'accès à la musique aux jeunes de Meurien, il te vaudrait mieux aider les adhérents via les CCRS plutôt que l'école de musique. Il ne prévoit pas une baisse des adhésions en 2021 à 760 euros. Quelle famille met ses gamins à cette école? Sincèrement, autour de la table, qui met ses gamins à cette école? À 760 euros.
Les gamins, ils sont à l'internat.
À 760 euros.
Bon, voilà. Le conservatoire à rayonnement régional de la métropole coûte en effet, c'est
180 et 200 euros par an.
Des millions d'euros qui sont donnés par la métropole et la ville de Montpellier pour faire tourner le conservatoire. C'est pas le niveau de subvention qu'on accorde ici ramené par. Par élève, comparé au conservatoire, il faudra qu'on fasse le calcul, mais il est.
Juvignac, c'est 100 000 euros de la proportion. C'est énorme.
Donc, on le sait, le modèle le moins coûteux pour faire fonctionner, c'est comme pour une crèche, hein. C'est le modèle associatif. C'est le moins coûteux. C'est subventionner de l'associatif. Quand on fait en régie, quand on fait en régie ou en interne, ça coûte plus cher. Donc aujourd'hui, si le modèle associatif ne tourne pas, il faudra prendre peut-être des décisions, j'en sais rien. Mais il ne faut pas tourner autour du pot. Si on veut internaliser une école, la rendre municipale ou métropolitaine ou quoi que ce soit, ou intercommunale, et non plus associative, ce sera de toute façon plus coûteux pour la collectivité. Forcément.
que ce soit une subvention directe, ou enfin que ce soit une attribution de compensation qu'on donnera à la métropole qui gérera, ou que ce soit une autre forme de prise en compte sur le budget, ça coûte plus cher.
Mais tout, si ça coûte plus cher, c'est un choix politique. Si on se dit que plus d'enfants, non mais si on passe à 400 euros et qu'il y a plus d'enfants qui accèdent à la musique et qu'on est prêt à contribuer à ça en augmentant notre subvention, c'est un choix politique. Le fait que ce soit plus cher, c'est pas un défaut en soi.
Ça serait plus cohérent de mettre beaucoup plus d'argent sur la table de faire une école municipale plutôt que de donner une subvention.
Mais si, pour une école municipale, c'est un chantier, ça coûte 300 000 euros.
C'est à 750
euros. Je vous propose que l'on continue. Tous les ans, on passe, et c'est très important, hein, je ne dis pas le contraire, mais à tous les ans, au moment du vote du budget, on passe un moment important du Conseil sur ces 3 000 euros. Certes, c'est important. Je vous rappelle que le budget, c'est quand même 1 600 000 euros, et que c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde. Et qu'il y a des enjeux très importants pour nous. Donc, on a bien écouté les remarques, les observations. Est-ce qu'il y en a d'autres sur les subventions des associations ? Donc je mets au vote qui est contre. Romain de Mostal est contre. Qui s'abstient? Donc c'est adopté à la majorité. Merci.
Allez. En point 5, nous allons passer au vote du budget primitif. La présentation donc, du budget primitif, qui est un budget prévisionnel pour l'année 2019. Alors, je vais vous annoncer tous les montants des chapitres. Non, pas du tout.
Au moment du vote, peut-être.
Alors, sur la section de fonctionnement, nous avons en dépenses un montant total de 1 582 001,66. Et au niveau des recettes, nous avons un total équilibré, bien évidemment, de 1 582 001,66. Ça, c'était pour le fonctionnement. Au niveau de l'investissement, nous avons un montant de 533 859,36 en dépenses, et en recettes, le même montant de 533 859,36. On ne voit pas en bas, mais c'est le montant que vous avez.
533 859,36.
Alors, les garde-fonds, enfin, aux différents chapitres, est-ce que vous avez quelques questions? On peut simplement remarquer, mais ça vous le savez déjà, au niveau de l'attribution de compensation qui a diminué, on est à 112 476 € au niveau du fonctionnement. Donc il y a une baisse d'à peu près 50 000 €, c'est ça? Mais ces 50 000 € ont été reportés au niveau de l'investissement, parce que depuis cette année, nous avons voté une ACI, voilà, au niveau de la... Voilà. Sinon, pas de questions.
J'ai une question pour l'ordre d'emprunt. Donc, c'est encore d'un niveau 564.
On va y venir sur le...
Alors, ça, c'est un emprunt d'équilibre, mais qui est acté sur le papier. Mais c'est un emprunt qui nous permet d'équilibrer tout simplement la section d'investissement, parce qu'on est en attente de recettes d'investissement. Ce qui ne veut pas dire qu'on fera un emprunt de 192 000. Si tu veux, c'est que c'est quelque chose qui est acté par la trésorerie. Il pourra être moins ou pas du tout. On pourra le faire moins parce qu'on attend des recettes, comme je te disais. Il pourrait être 200 000. Ça, enfin, voilà, on ne sait pas. C'est simplement un équilibre au niveau du budget. Voilà, au niveau du budget. Ça, c'est quelque chose qui est autorisé par la trésorerie. Parce qu'on est en attente d'une vente de terrain municipal. Le compromis est signé, mais pour l'instant, c'est pas encore. Donc, on ne pouvait pas le mettre dans le budget. C'est une question de quelques mois. Voilà. Voilà, c'est une question de quelques mois. Pardon ?
Je la mettrai sur le compte réserve plutôt que sur le contrat.
Et non, parce que si jamais on ne vend pas, effectivement, ce terrain ne se vend pas, on sera obligé de faire un emprunt. On sera obligé d'emprunter.
Et on est obligé de le faire apparaître. Enfin,
et on est obligé de le faire apparaître pour l'équilibre. Et oui,
c'est
pour
pas
l'équilibre.
Une réserve
de... Non, c'est pas une réserve. Voilà.
Il y aurait une délégation modificative pour
alors, il y aura effectivement des modifications quand la vente du terrain, voilà, ouais. Quand la vente du terrain se fera et quand on recevra d'autres recettes. Voilà.
On va revenir sur l'investissement parce que je vois qu'il y a des diapos sur l'investissement.
Oui.
Par rapport à 2018, donc on vote un budget primitif en 2019 par rapport au compte administratif 2018. On vote un budget qui est toujours en légère baisse. Est-ce que c'est bien ça ?
Oui.
Alors, sauf qu'il y a l'artefact il y a l'artefact du logement, enfin de la, du local de l'Esplanade qui fait que 2018 a été gonflé. Oui,
a été gonflé.
Alors,
c'est
9%.
Alors, les principaux investissements pour 2019, vous avez la rénovation des anciens appartements des écoles pour 90 000 euros. Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées pour 112 000 euros. Alors nous avons une enveloppe pour les bâtiments communaux de 40 000 euros, donc c'est les différents travaux qui peuvent survenir, donc peinture ou autre. Au niveau des quatre pilas, c'est 2 000 euros. Vous avez la mission archive qui aura lieu en juin pour 13 500 euros. Et au niveau de l'aire de jeu de l'Esplanade, on a eu des jeux et puis un petit souci pour un montant de... Enfin, il va y avoir pour 4 600 euros l'installation d'un jeu pour enfants.
Mais l'année dernière, c'était la friterie.
Alors, oui. Les archives, en fait, ce sont toutes les archives de la commune qui n'ont jamais été traitées par le centre de gestion. Ouais. Pas forcément déjà rangées. Parce que pour l'instant, elles sont dans un local et c'est un peu... Voilà, rien n'est rangé, rien n'est classé, rien n'a été... Voilà, tout est désorganisé, rien n'a été fait depuis au moins plus de 10 ans, même 15 ans. Et du coup, c'est le centre de gestion qui gère ça. Le centre de gestion 34 qui dépend des archives de Pierreville.
D'accord.
Et les délais d'attente sont très longs. Donc cette année, on fait les archives modernes et les archives anciennes d'un seul coup. Et ça va se passer en juin. Il reste là au moins 2 mois.
D'accord.
Et dans les 13 000, nous, ça nous coûte 13 500 euros. Mais il y a 3 000 euros d'aide, à peu près 3 500 euros d'aide du département. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient.
Pour l'avoir.
Non, ça, c'est des archives.
Non, mais
pardon.
Je posais une question.
Ah, sur la voirie, pardon, excuse-moi.
Non.
J'avais pas entendu.
C'est sur la voirie. Est-ce que c'est prévu quelque chose en 2019? Parce que je vois sur le fonds de concours de métropole de 133 754.
Oui, voilà.
Le fonds de concours, il n'y a pas de 100 000.
59 000.
Mais 59 000, plus 73
000, d'assez.
Voilà. Ce qui est difficile dans le budget d'investissement, c'est que... il y a deux choses pour la voirie. Il y a l'attribution de compensation qu'on paye à la métropole. Ça, c'est fixe tous les ans. C'est 73 000 et des poussières. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le fonds de concours. C'est-à-dire ce qu'on rajoute volontairement. C'est une sorte, pas de subvention, mais c'est un peu l'équivalent, qu'on apporte à la métropole pour renforcer, augmenter le potentiel d'investissement sur la voirie. Ce qu'on vote au budget, c'est ce qui va être dépensé. C'est en fait, là par exemple, cette année, il y a 50 et quelques mille, 59 000 de fonds de concours. C'est en fait un fonds de concours qu'on a voté les années précédentes, donc l'année dernière, l'année d'avant, et qui nous est appelé par la métropole l'année suivante. Donc là, c'est ce que la métropole va nous demander de payer pour des travaux. C'est des fonds de concours sur la fin des petits travaux qui ont été faits à droite à gauche et encore une fin d'esplanade. Enfin, c'est des choses comme ça. Cette année, on va décider, mais ça ne sera prélevé que l'année prochaine, d'un montant de fonds de concours qu'on va voter, mais qui ne sera pas inscrit au budget puisqu'il ne sera appelé par la métropole que l'année suivante. Donc cette année, on est en train de finaliser ça avec le pôle, on en parlera entre élus et puis on vous présentera ça. On est en train de faire tout le montage financier pour attaquer la venue du Champ des Moulins.
Donc, donc avec des financements qu'on recherche partout pour que ça nous demande le moins de fonds concours possible, étant donné la situation, avec un étalement des travaux, etc. Donc, on est en train de finaliser ça. Ça devrait passer. Donc, on est en train de calculer ce montant de fonds de concours qu'on va faire le plus petit, moins important possible, parce que la situation l'année prochaine en investissement sera pas facile. Mais on va quand même entamer les travaux, Champ des Moulins. Donc, les études sont prêtes, tout est prêt. On en a encore parlé à la réunion sur la fibre tout à l'heure, parce qu'il y a les questions d'enfouissement qui sont liées aussi. Et donc on va être en capacité de pouvoir commencer cette année, donc, parce qu'il va falloir commencer par en plus les réseaux, l'assainissement, tout ça, pour ensuite passer sur la partie trottoir, voirie et tout, qui commencera surtout en fin d'année et s'étalera sur l'année suivante. Il y aura deux tranches, même peut-être trois si on prend la tranche côté ancien tennis.
Oui. Celle-là, elle est financée.
Celle-là, elle est financée par le PUP. C'est côté gauche, en allant vers chemin d'Iréo, où là, il fallait monter. C'est un énorme budget, hein. C'est 600 à 700 000 euros au total. Il faut trouver partout de quoi faire le montage.
Donc, ça tombe bien entre le professeur et entre la métropole et entre
le... Ça va. Sur la voirie, ça va encore. Donc, en fait, cette année, on va voir en fin d'année 2019 commencer les travaux donc de la route départementale, parce que vous avez vu, les travaux des saillies commencent, et donc ça va commencer, et le Champ des Moulins.
Isabelle, j'étais pas à la réunion.
Mais ça ne transparaît pas encore sur le budget de cette année, parce que ce sera reporté.
J'étais pas à la réunion sur la fibre, si je comprends bien, ils vont se caler sur les travaux de la vue du Champ des Moulins pour la fibre ou pas?
Mais ce qu'on leur a demandé, c'est de ouais. Ce qu'on leur a dit, c'est que s'il y a un endroit, un seul sur la commune où on peut s'engager dans le PPI à dire qu'il y aura de l'enfouissement, c'est Champ des Moulins, mais que par contre sur le Clapas ailleurs, on n'a pas les moyens d'engager les travaux à court terme. Il faudra attendre quelques années, parce qu'on va d'abord finir le Champ des Moulins avant de commencer le Clapas ou la rue des Closes et tout, et puis il y aura encore la vue des jardins. Bon, il y en a pour des années là. Et que donc, faut pas qu'ils nous. Autant sur le Champ des Moulins, ils peuvent attendre l'enfouissement pour fibrer. Autant ailleurs, il faut qu'ils passent en aérien, il ne faut pas qu'ils attendent, parce que sinon, dans 3 ans, 4 ans, on y est encore, et les habitants veulent le très haut débit maintenant. Donc c'est ça, c'est là ce qu'on a vu tout à l'heure avec Orange.
Donc l'aérien, c'est des poteaux.
C'est-à-dire que Orange, ils passent en aérien, on fait une parenthèse, hein, c'est la réunion tout de suite. Ils passent en aérien sans problème, dès lors que les poteaux sont suffisamment solides. Et donc ils font des diagnostics de charge. C'est Enedis qui fait ces diagnostics-là. Et donc, on leur a demandé qu'ils nous transmettent tous leurs diagnostics pour qu'on voit et qu'on sache, parce que c'était pas transparent du tout, qu'on sache vraiment qu'est-ce qui, au fond du fond, explique que ça ralentit. Donc, pour répondre à ta question sur la voirie, c'est...
Une simple information quand même, en faisant ces études sur la voirie, quand le Champ des Moulins, ils se sont rendus compte qu'il faut refaire totalement le soubassement de la voirie.
C'est très bien.
Ils ont posé, le revêtement a été posé directement sur la terre, sans aucune fondation.
Champ des Moulins.
Donc quand le bus passe, ils sont obligés de creuser sur 60
cm. Ça va être creusé sur 60 cm.
Pour refaire un fond de forme.
Ça va être un chantier énorme. Donc, on comprend que ça n'avait pas été fait avant par les autres municipalités. Il faut l'attaquer, mais des chantiers comme ceux-là, ça ne se fait pas en un mandat, hein, c'est sûr. Elle est longue, elle est large. Et bon, ce qu'il faut voir, bon, faut le dire entre nous, c'est un choix, c'est important, il faut le faire. En plus, le bus y passe et tout. Mais c'est sûr que c'est un petit peu le contre-coup de notre urbanisation. C'est un endroit où il y a des grands terrains, des villas. Et ça va être, faut le dire, faut être très clair entre nous, un très gros chantier qui au final bénéficie. Bon, ça bénéficie au bus et tout, pas tout le monde, mais le nombre de riverains concernés.
Oui, il y a peu de maisons, si tu veux, mais.
Peu
importe. Mais
c'est un
axe de passage.
Et puis il y a deux bus maintenant qui passent, le petit bus. Avant, il n'y avait qu'un bus qui passait, maintenant, le petit bus passe depuis 3 ans.
Et on apprend qu'il se garde même sur les trottoirs.
Oui, aussi. Pas seulement ça. Ok.
Donc sur le budget,
sur le vote du budget primitif 2019.
Est-ce qu'avant peut-être de reprendre tous les montants,
tu veux qu'on va d'autres graphiques.
Est-ce qu'il y a des questions sur ces investissements? Donc le budget 2019, il est lourd en investissement parce que c'est quand même la fin de. C'est le gros chantier de la mise aux normes handicapées auquel on ne coupe pas et sur lequel on n'a toujours pas de visibilité sur la subvention qui nous sera accordée. Donc on vote un budget ici sans avoir inscrit la subvention. C'est ce qui explique aussi pourquoi on met pour équilibrer un emprunt mais dont on sait qu'on ne le fera pas ou pas à ce niveau. Parce qu'il y a la subvention et parce qu'il y a notamment d'autres recettes qui doivent arriver en cours d'année mais qu'on ne peut pas inscrire au budget aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas la notification.
On l'aura fin avril, je pense. Ça, c'est ça pour la DETR pour,
la subvention fin avril, subvention début mai.
Voilà, fin avril, ouais. Début mai.
Et la parcelle, bah, il faut attendre la dernière étape.
Chose, oui. Voilà. L'archéologie.
Il doit se faire normalement en avril. Okay.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Donc, on le passe au vote et on reviendra sur la fiscalité. Donc, vous allez le voir, on vote un budget sur la base d'un maintien des taux d'imposition. On va revenir sur le vote sur les taux d'imposition. Mais c'est une proposition donc, des élus de la majorité qui se sont longuement concertés, qui ont très longuement analysé la question, qui ont très longuement et fortement débattu cette question et qui ont décidé de la majorité de ne pas augmenter les taux d'imposition, un des arguments étant que c'était un engagement de campagne. On a supprimé des abattements mais on n'a pas touché au taux d'imposition, même si entre temps la commune a perdu en cumulé 500 000 euros de recettes. Donc si elles étaient là, c'est 500 000 euros de recettes, on ne serait pas dans cette situation. De dotation en moins. Et presque 150 000 euros de CAE qu'on a touché. C'est-à-dire 650 000 euros en moins. Donc on réussit, mais de façon essoufflée, parce que le budget de fonctionnement ne dégage plus aucune épargne à cette date. Le budget de fonctionnement aujourd'hui n'est d'agage plus aucune épargne. Mais on arrive à la dernière année du mandat en ayant tenu l'engagement. Mais après, c'est très fort questionnement.
Mais un jour ou l'autre, il faudra bien qu'il y
ait des pauvres. Il y aura des nouveaux habitants maintenant qui vont contribuer encore.
Sauf que François, les nouveaux habitants vont arriver en 2022. Non, vont arriver en 2021. Donc ils vont payer les impôts en 2022 sur le budget de fonctionnement. Donc ça ne pourra être basculé sur le budget d'investissement qu'en 2023. En 2023.
On a aussi un capacité d'emprunt hein, qui est convenable aussi.
Il est lors que ce sont des investissements productifs derrière.
Exactement.
Voilà, enfin ça c'est une autre question, mais en tout cas voilà, il faut qu'on soit très clair sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On est avec un budget de fonctionnement qu'on va voter, mais qui va être une capacité d'épargne quasiment nulle. Est-ce qu'il y a des observations?
Une petite question, je ne sais pas si ça vient avant ou après le vote. Purement administratif d'habitude, il ne faut pas voter aussi l'augmentation éventuelle des loyers pendant votre budget?
Non.
C'est un terme de braquage.
C'est des révisions.
Oui, mais je pense que c'est des indexations qui se font.
C'est d'habitude de vote.
Quand nous décidons de.
Oui, on a inscrit la recette dans le budget et après la variation, on verra suite aux discussions que vous avez entre élus, si oui ou non.
Voilà. Mais faut non, si on l'a voté quand nous décidait, quand c'est un nouveau bâtiment, forcément, quand c'est nous décidait d'avoir une augmentation sur un bâtiment.
Mais c'est toujours prévision.
C'est des loyers qui sont réglementaires, c'est pas une date précise.
Si c'est au 1er janvier, c'est indexé, mais on n'est pas obligé.
Je pense que le premier loyer d'un logement, effectivement, on peut le voter. Et dans le bail, il y a en général une clause d'annexation. Et absolument, on respecte les clauses d'annexation dans le bail. On n'a plus besoin de passer.
Donc, ce qui se fait automatiquement, de toute façon, on ne le vote pas. Bon, non. Pas c'est quand il y a un nouvel.
Un nouveau bail, on a décidé de le faire.
Pour le bar,
le bar,
c'est tout de suite.
Ça, tous les logements, on les votait. Mais je n'étais pas sûr que ce n'était pas la même chose.
Bon. Mis à part cette observation, est-ce qu'il y a d'autres observations sur le budget, fonctionnement, investissement? Donc je le mets au vote. Qui est contre l'adoption de ce budget? Ou est-ce qu'il faut peut-être que tu le relises? Excuse-moi, j'ai peut-être été trop vite.
Non, pas du tout, naturellement.
Donc sur le budget tel que je l'ai présenté,
section de fonctionnement, on fait la même chose. Dépenses et recettes pour 1 582 001,66 €. Et la section d'investissement en dépenses et recettes, 533 859,36 €.
D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le budget est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc maintenant on passe au
vote de la fiscalité.
Vote de la fiscalité des taux. On revient un petit peu en arrière dans les PowerPoints.
Alors, il y a une évolution des taux d'imposition depuis 2002.
Je dois finir pour le voir.
Ah, il y a l'évolution de la fiscalité.
Il y a 26.
Non, ça a été en arrière.
Ça ne veut plus.
Voilà, l'évolution du taux. Voilà les taux. Donc au niveau de la taxe d'habitation, on est à 15, on va rester à 15,86%. Au niveau de la taxe du foncier bâti, on va rester à 19,37%. Et au niveau de la taxe foncier non bâti, à 70,50%. Vous avez en face le produit que nous rapporte cette fiscalité avec un total annuel de 812 516 €.
C'est dommage qu'il n'y avait pas une comparaison avec, avec la même population, le même strat pour la même population. Pour voir les taux, pour voir les marges.
Dans d'autres communes, tu veux dire
Tu peux nous donner.
Je sais qu'on est moins élevé que les autres. On a fait le tour des autres communes l'année dernière, on a fait ça. Et on est plutôt bas quoi, par rapport aux communes avoisinantes, mais ça reste dans les 17-19%.
On est dans un taux d'imposition moyen, bas, par rapport au reste de la métropole, sur Murviel. Alors qu'on a une population au potentiel fiscal en moyenne plus élevé. Il fait bon vivre à Murviel.
Non, mais c'est intéressant de dire que ça pénalise aussi ce que tu as dit tout à l'heure. Là, on peut faire le lien, à nous rappeler, quoi.
Dotation.
Les conséquences sur la dotation.
Une question, les bases d'imposition qui sont les bases, c'est celle de 2018.
Oui. Elles ont augmenté de 1,02.
Elles ont augmenté de 2,2%.
1,02.
Oui. C'est annoncé partout de 2,2.
C'est où partout?
Moi, j'en ai dit, par 2,2%.
Ça va dépendre des
coûts. Oui, je ne sais pas la question efficace.
On a perdu des habitants. On a une population.
Oui, mais la base. La base,
on a augmenté de 1,02 par rapport à 2018.
La base, elle est fixée au niveau de la situation.
Il doit y avoir des seuils. Il doit y avoir des seuils en fonction du nombre d'habitants.
C'est intéressant de savoir quels sont les exactements qui font que cette augmentation de la base, qui est de 2,2% dans la loi de la loi de finances, il est ramené chez nous à 1,2.
Bon, on essaiera d'avoir l'information. Ouais, donc la dernière augmentation était en 2004, je crois. Non, 2004 et puis 2009. Donc là, on vote toujours. On propose de voter un taux depuis 10 ans. Donc les taux d'imposition n'ont pas augmenté. Par contre, un abattement a été amoindri, pas totalement supprimé, mais amoindri en 2017, je crois. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y en a pas, je mets au vote. Qui est contre cette proposition sur les taux d'imposition? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité, merci. Donc on a terminé, je pense, là, avec le volet budgétaire.
Merci beaucoup, l'organisation.
On retient que pour d'autres fois de faire des comparaisons. Donc on passe
au règlement local de publicité intercommunale.
C'est toi qui présente, Laurence?
Oui.
D'accord. Donc Laurence présente. Ok.
Alors, élaboration du règlement local de publicité intercommunale. C'est le RLPI de la métropole.
S'il vous plaît.
Alors, je vais simplement vous énoncer un tout petit peu ce que c'est. Afin de protéger le cadre de vie, le code de l'environnement fixe les règles applicables à la publicité aux enseignes et aux préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Les règles nationales concernant la publicité extérieure peuvent être adaptées aux spécificités locales à travers un règlement local de publicité. C'est le choix qu'a fait la métropole de Montpellier-Méditerranée en prescrivant l'élaboration de son RLPI le 27 septembre 2017. Alors, il y a eu plusieurs enjeux. Alors, il y a des orientations générales, c'est-à-dire on protège le cadre de vie, on limite la pollution visuelle et les atteintes à l'environnement, concilier la lisibilité des acteurs économiques et protection surtout des paysages. On assure un traitement cohérent, de la question de la publicité extérieure à l'échelle de la métropole. Alors, les orientations en matière de publicité, valoriser la qualité du cadre de vie sur l'ensemble du territoire. En fait, c'est proscrire sur l'ensemble du territoire les formats de 12 mètres carrés. Vous savez, ces gros panneaux publicitaires.
4 sur 3.
Voilà. Qui fixaient des formats maximum plus restrictifs et les adapter aux caractéristiques urbaines de chaque secteur. Donc pour les zones commerciales, les zones résidentielles et les centres-villes. Encadrer la densité publicitaire pour réduire l'emprise visuelle de l'affichage publicitaire et pérenniser les secteurs aujourd'hui globalement bien préservés de l'affichage publicitaire. En sachant quand même que nous, à Murviel, on a été à une réunion avec Nathalie, on n'est pas vraiment concerné par cette pollution visuelle de l'affichage.
Et 3 sur 4 à Murviel, oui.
Non, on n'est pas... Oui.
Fort heureusement.
Oui, mais bon. On est préservé. Et voilà, il faut donc intégrer aussi des règles de recul pour toute publicité implantée devant une baie d'habitation, afin de préserver le cadre de vie de tout habitant. Après, valoriser les portes d'entrée vers la première couronne métropolitaine. Aujourd'hui, plusieurs grandes pénétrantes urbaines connaissent une emprise publicitaire importante. Alors en fait, tout ça s'est adressé principalement pour les villages, enfin les petites villes Bayarde, Vendargues, Le Crès, Castelnau, Montpellier bien évidemment, Saint-Jean-Bédas et Latte. Donc il faut réduire la densité publicitaire. Il n'y a pas Juvignac. Je relis, mais il n'y a pas... Si, Juvignac apparaît. Si, Castelnau, Juvignac, Latte. Si, tu as raison, il y a Juvignac aussi. Donc préserver la qualité des axes, aujourd'hui peu impacté par l'affichage publicitaire, et anticiper les conséquences du développement ou de la requalification de certains pôles d'équipement et commerce qui seraient facteurs d'attractivité publicitaire. Interdire la publicité sur les murs de clôture le long des grands axes, encadrer l'affichage en sortie de la nouvelle gare Sud de France, etc. Après, il y a d'autres points. Après, encadrer l'affichage publicitaire dans les secteurs remarquables et les centres-villes. Une attention particulière est portée aux secteurs présentant un intérêt architectural singulier. Et afin de pérenniser la qualité de ces espaces et la lisibilité des éléments bâtis, l'affichage publicitaire doit être très, très encadré. Et après, limiter la pollution lumineuse
Donc une plage d'extinction nocturne plus large que ce qui est imposé aujourd'hui dans le code de l'environnement sera envisagée sur certains secteurs afin de réduire les atteintes à l'environnement.
Monsieur Sora va s'occuper plutôt des bons champs à Juvignac à l'entrée de Montpellier que parler des...
Voilà.
Il utilise bien les panneaux publicitaires à lattes, vous savez ce qui s'est passé ?
Non.
Bon, petite parenthèse, ça me donne un peu, ça détend le...
Pour le taux d'imposition ?
Ben, vous savez, les fameux, oui, les fameux 4 sur 3, là, ce sont des roulants, là, il y en a 3 qui se suivent. Donc il y a un mois, il les a, donc, sur le compte de la métropole, hein, je pense la ville de Montpellier, il les a tous achetés sur latte, tous, y compris les 3, là, qui tournent, en faisant afficher le grand 0% de fiscalité sur la métropole de Montpellier et sur la ville de Montpellier. Sur la commune de Latte. Donc les Latois apprennent que les Montpelliérains ont la chance d'être à 0%. Les Latois, eux aussi, ils ont 0% d'augmentation de fiscalité. Mais la métropole ne s'est pas associée à la commune de Latte pour communiquer sur le taux d'augmentation. Donc toutes les sucettes, ce qu'on appelle les 4 sur 3, dans toute la ville.
Ça fait un peu comme sur les gars, tu as 0% de matière grasse.
Voilà. Non, mais en même temps, qu'il y ait ce travail d'encadrement de l'affichage publicitaire, moi, je trouve que c'est...
Oui, c'est très bien, parce que très bien, dans certains villages, c'est un village, quand même.
Il y a des endroits, il y a des
c'est
endroits
où ça se
passe.
Et même
en ville, voilà. Mais pour l'instant, on ne vote que sur l'organisation du débat.
Oui, voilà, c'est ça, c'est une étude, voilà.
C'est pas en face de l'exposition.
Donc là, s'il y a des suggestions dans le... C'est là, c'est le moment de recueillir les suggestions, si vous en avez, hein. C'est un débat.
Qui nous réserve des panneaux pour mettre 0% de l'occupation.
Un grand débat sur les panneaux.
Donc, est-ce que vous souhaitez débattre de cette question ? Parce que le Conseil, à la fin, devra prendre acte que le débat a été organisé. De la même façon qu'on débat sur le...
Par rapport à ce qu'on a
dit. Oui, voilà. Mmh. Bien, donc s'il n'y a pas plus d'observations, je vais vous demander d'acter que la métropole a bien mis en place un débat sur les orientations du budget de règlement local de publicité intercommunale. Qui s'oppose ? Voilà. Qui s'abstient ? Donc le Conseil prend acte. Du débat. On passe au point suivant. C'est un point qui concerne une demande de permis de construire qui a été posée. C'est toi qui présente ? C'est moi. Je vais le présenter rapidement et toi tu prends le point modification des PLS. Donc sur le lieu dit la garrigue de Tamaro, donc c'est au Mas-Dieu, sur un espace privé, qui d'une surface qui n'est pas très claire d'ailleurs dans le dossier qui a été déposé. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont venus le consulter parce qu'il y a une enquête publique en cours qui s'est terminée. L'enquête publique est terminée. Il était présent donc en mairie. Donc c'est un projet photovoltaïque déposé par une entreprise et société espagnole, Dama Energy Management, donc sur des terrains privés situés en contrebas de l'autoroute, au droit un petit peu des quatre pilas, c'est sur la partie qui touche, qui concerne quand même assez Murvienne. Autrefois, il y a 2 ans encore, le SIAD avait un projet de ferme photovoltaïque. C'est au même endroit, mais ça englobait en plus la partie des communes. C'était sur 60 hectares. Le SIAD a abandonné, mais une société est à nouveau venue voir les particuliers qui ont des terrains à cet endroit-là pour ce projet. L'enquête publique s'est faite, mais elle est terminée, mais les communes ont 2 semaines, je crois, pour transmettre un avis. Donc les 4 communes concernées qui ont été définies par le commissaire enquêteur. Donc il y a Murvielle dedans.
Avant de
venir.
Tu peux rappeler les communes ? Il y a Murvielle.
Il y a Murvielle, Saint-Georges, Saint-Paul et Montarnier. C'est ça ? Donc.
Mais Murvielle n'est pas concernée pas l'entrée du projet, mais simplement dans le périmètre de...
Le périmètre de concertation, oui, et on nous demande notre avis, l'avis du conseil. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le SIAD aussi a communiqué un avis négatif. La commune de Montarnaud également, je pense que Saint-Georges et Saint-Paul aussi également. Et donc voilà, vous avez un avis qu'on a rédigé. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, on a repris des arguments pour la ville de Montpellier, de Murviel-les-Montpellier, qui n'a pas forcément les compétences et la connaissance sur les questions techniques comme la biodiversité, tout ça. On n'a pas émis d'avis, parce qu'on n'a pas les moyens, nous, de porter ce jugement-là. Le SIAD a fait faire une analyse très précise et a démontré qu'il y a beaucoup de failles dans les études préalables qui ont été faites au niveau biodiversité pour ce projet, donc, qui déjà... à elles seules suffisent selon le SIAD, à rejeter déjà le projet. Nous, on a en plus, je ne vais peut-être pas vous relire tout l'avis, mais je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais on a beaucoup accentué sur le fait que pour la commune de Murviel, le photovoltaïque en soi, c'est pas une mauvaise chose, au contraire. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans le SCOT, par exemple, de la métropole, bon, on est hors SCOT là, parce qu'on est sur le... On n'est pas sur le territoire murviellois, on est sur le territoire montarnais, ouais. Mais que quand même, par exemple, dans le SCOT de Montpellier, si on veut parler de cohérence inter-SCOT, le photovoltaïque est très clairement inscrit comme prioritaire sur les toits, mais pas sous forme de ferme. Et c'est montré, c'est annoncé. On dit qu'avant de développer des fermes, commençons déjà par valoriser tout le potentiel de toits, de toitures qui n'est pas encore valorisé.
Et pour toits et friches industrielles.
Et friches industrielles.
Un énorme gisement.
Voilà.
Qui ressent de valeur paysagère.
Voilà. Donc déjà, il y a cette question, je dirais, de cohérence avec le SCOT, mais ça, c'est plus globalement que nous. Et nous, deuxièmement, c'est qu'on explique que la commune de Murviel, dans son projet de territoire et qu'elle traduit justement dans le SCOT aussi, hein, et dans son PLU, on donne une vocation agricole et d'élevage à tout ce périmètre-là, et que ben, ça ne nous semble pas compatible. Et puis aussi, toujours dans notre projet de territoire qui est fondé sur le développement touristique et la valorisation des sites, notamment du site de l'Oppidum, l'endroit, je dirais, d'où le projet serait le plus visible, c'est justement le site, c'est le Castellas. C'est de là qu'on aurait la visibilité le plus sur cet endroit-là. De Montarnaud, il ne voit pas cet endroit-là. Alors, de Saint-Paul non plus, de Saint-Georges non plus. C'est Murviel qui a la vue plongeante sur cet endroit-là. Quand on est aussi sur la draille, le Pioche-Riquet, quand on est sur la draille. Que donc la draille, c'est le chemin des FCI qui fait la frontière entre Montarnaud et Murviel, au-dessus de Grande Combe, au-dessus de chez M. Châtelain.
Ah oui, d'accord.
Et qui rejoint la route de Bel Air. Ah, oui. Et quand on est là, on surplombe tout le Mas Dieu. Bon, on a déjà en contrebas les installations, là, mais là, ce serait carrément au-dessus. Donc voilà, un peu résumé les arguments qui font qu'on vous propose de donner un avis négatif à ce projet. Et de toute façon, nous semble très... Enfin, il y avait beaucoup de contradictions dans le... On a du mal déjà à trouver une surface exacte d'emprise. Enfin bon, c'est un peu
fou. Ne sont concernés dans Murviel, Montarnaud, Saint-Georges.
Et Saint-Paul, je pense. Saint-Paul. Les quatre communes du SIAD, en fait, je pense.
Il y a encore
des autres communes, mais on connaît Montarnaud.
On connaît Montarnaud déjà, qui est négatif, et le SIAD qui est négatif.
Le SIAD est négatif, on imagine que les communes du SIAD se sont ralliées à la position du SIAD, elles ont dû voter aussi.
D'accord.
C'est logique. D'accord. Il y a des associations aussi, environnementales, qui sont positionnées.
Le principal enjeu, c'est d'avoir un enjeu de biodiversité. Et là, la commune du SIAD, enfin, la commune de Montarnaud, avait une chargée de mission. Il y a chargée de mission du site Natura 2000 pour faire une analyse, mais alors technique, très assez approfondie, sur les conséquences que ça aurait. Il y a des choses un peu aberrantes. Il y a une étude d'impact qui a été faite, et l'autorité environnementale s'est prononcée, c'est un organisme d'État, s'est prononcé sur l'étude d'impact, est très très critique. Et 6 mois après, ils ont mis un dossier avec lui avec une autre étude d'impact, sur laquelle il y a l'autorité environnementale qui va prononcer. Donc il y a déjà des tas de choses qui ne sont pas tout à fait normales dans ce dossier-là.
De toute façon, on ne peut que, dans ces cas-là, en rajouter et rejeter un avis défavorable.
Est-ce qu'il y a d'autres observations sur cet avis? S'il n'y en a pas, je mets au vote. Donc pour cet avis, tel qu'il est formulé, avis défavorable au projet d'implantation de centrale photovoltaïque déposé par la société Dama Energy Management. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors là, on passe... Tu veux la présenter, Laurent, ou... Ça touche ou je le fais? C'est sur la présentation du complète, je dis à grands traits, et puis complète ou Alain aussi pour la compensation. Ouais, mais là il s'agit d'adopter. Donc en fait c'est il y a deux dans cette délibération, en fait il y a deux sujets qui sont très étroitement liés. C'est l'approbation de l'acquisition de la cession gratuite du bâtiment du conseil départemental qui est situé au 4 Pilla. Et c'est l'approbation de mise à disposition sous forme de bail emphytéotique au département pour 30 ans des terrains mis aujourd'hui exploités par l'éleveur Bruno Girard, l'éleveur de chèvres, qui bien entendu va rester sur place, mais qui pour que ces terrains fassent objet d'une compensation, de mesures compensatoires. Donc en fait, l'histoire, on en a déjà parlé ici, c'est que le département donc, va construire le lien. Il y a du retard, il y a des recours, mais le lien qui contourne donc Grabel et puis Saint-Gély-du-Fesc et Grabel, et qui va aboutir à Bel Air d'ailleurs, pour reprendre la 4 voies. Et après...
Pour boucher un peu plus.
Voilà, pour boucher un peu plus. Donc ce projet doit faire l'objet de mesures compensatoires assez conséquentes. Et donc le département a cherché des terrains pour mener avec différents types d'écosystèmes. Et donc une partie de ces compensations se feront donc sur les 36 ou 37 hectares. Voilà. Qui sont pour l'instant... qui font pour l'instant l'objet d'un prêt depuis un an au chèvrier.
Mais c'est des terrains qui sont à nous à 100%,
ça. Oui. Ouais. Alors, en plus, le département va en plus traiter avec des particuliers sur les bois. Soit d'acquisition de bois, oui. Soit de bois amphytéotiques. Je parle pour Murviel.
Quel est notre intérêt?
Là, c'est la
suite. Je ne parle pas des particuliers. Ah oui, d'accord.
Donc l'intérêt de la compensation, c'est que dans une mesure compensatoire, donc c'est sur 30 ans, le département s'engage donc dans son dossier de dérogation, parce que pour pouvoir déroger et détruire les habitats, il a fallu qu'il présente un dossier de dérogation, où il montre qu'il est capable de compenser. Et donc dans les mesures compensatoires qui vont être prises pendant 30 ans, c'est justement la mise en valeur, la valorisation, l'aménagement, la reconquête, on va dire, de ces milieux. Donc c'est au 4 Pilla, c'est à la fois les prairies qui sont dans la plaine en bas, et puis les bois et un peu de garrigue qui remontent le long de la route de Béa. Et donc pendant 30 ans, en lien, nous ce qu'on a dit, c'est qu'on était d'accord dès lors que le chèvrier était partie prenante du plan de gestion, pour avec CGF gérer l'écosystème. Mais ce que va faire donc c'est le CEN, le Conservatoire des Espaces Naturels, qui est l'opérateur, hein, qui va faire tout ça. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Ils vont réaménager les cours d'eau, les fossés, les haies, refaire des plantations, enfin redonner une valeur en termes de biodiversité, etc., à tous les entretiens, des contrôles, en lien aussi avec le troupeau. Et donc on en a parlé avec l'éleveur de chèvres qui était qui est tout à fait favorable, au contraire, parce que ça lui... Il peut même bénéficier, par exemple, le chevrier, de clôtures, de choses comme ça, à l'occasion de ces travaux. Donc c'est un plus en termes d'amélioration foncière, en plus. Donc ce qu'on a déjà fait, c'est que l'éleveur de chèvres, M. Girard, bénéficie d'un bail rural pour la partie bergerie, et puis une petite parcelle attenante, c'est ça Laurent, hein ?
C'est
bizarre. Donc un bail rural en bonne et due forme qui lui garantit donc maintenant la pérennisation de son installation. Pour 9 ans, c'est un bail classique. Qui lui permet aussi d'aménager le bâtiment, d'y installer sa fromagerie qu'il est en train de terminer. Et par contre, toute la partie parcours, là, il était au courant, on a juste fait un commoda qui est en cours de prolongation, pour qu'ensuite ce soit le département, avec le département qu'on fasse ce bail, qui est proposé ici. Alors on va inscrire un montant dans le bail avec le département, qui n'est pas encore fixé. Nous, on veut que la commune... s'y retrouve aussi au niveau des frais, parce qu'on a toujours des charges, on paye, je ne sais pas si dans un bail emphytéotique on continue à payer les taxes foncières par exemple ou quoi, mais bon, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et donc on fait le bail emphytéotique au département qui ensuite va relouer au chevrier sous forme d'un bail rural avec des mesures environnementales. Lié à cela, le département possède un bâtiment qui est connu de tous au 4 Pilas, qui fait environ 600 mètres carrés de plancher, surface de plancher. Environ 600 mètres de surface de plancher, environ. Hein. Donc on n'a même pas sûr des mesures, parce qu'on a eu des plans, mais 300 mètres carrés au sol, donc sur deux niveaux. Et le département voulait s'en dessaisir, parce qu'il est dans une phase où il se dessaisit de son patrimoine. Et donc l'avait fait expertiser par France Domaine, qu'il avait estimé à 500 000 euros, un bâtiment agricole. Et donc, quand on a appris ça, nous, on a dit au département, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vendre ça au premier venu pour faire une opération. C'est un endroit qu'on veut préserver pour l'agriculture et l'élevage. Donc, ce bâtiment, il faut qu'il soit destiné à ces activités-là. C'est de ce qu'on a inscrit dans le PLU aussi. Hein. Et donc, il faut déjà revoir les... Voilà. On a réussi à bloquer comme ça, d'autant plus qu'on a dit qu'on lance avec vous cette opération de compensation sur le même endroit et qu'il faut qu'il y ait une cohérence aussi dans le projet, quoi, global, sur le lieu. Et donc, on demandait au département de trouver un acquéreur, mais en lien avec nous, un agriculteur. Au début, on proposait aussi à l'éleveur de chèvres, pourquoi pas d'y faire sa fromagerie, mais les délais n'étaient pas... Le phasage n'était pas le bon, lui il fallait qu'il fasse très vite, or attendre le département, on y serait encore, la preuve, on y est encore. Et lui il fallait absolument qu'il fasse sa fromagerie, donc ça y est, il l'a faite. Bref, le département nous a dit, mais nous, on n'a pas envie quoi, d'être toujours maître d'ouvrage et d'aller chercher les porteurs de projet, on vous cède le bâtiment. Gratuitement. On a réfléchi très longtemps avec les élus, parce qu'on avait peur que ce soit un cadeau empoisonné. Parce que certes, c'est du patrimoine, mais après, il faut être en capacité de pouvoir... Oui, il y a des charges quand même. Il faut être en capacité d'aller trouver des porteurs de projets et tout. On est dedans. Moi, je pense que ça se profile bien, mais tout n'est pas encore bien calé. Mais donc, on a suffisamment de pistes pour que les élus... On a fait 3 fois des réunions là-dessus, en réunion MNA. On s'est accordé sur la nature des projets qu'on voulait y voir, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, et on a décidé qu'on y allait et qu'on acceptait ce cadeau. Hein, je pense que c'est gratuit. Hein. Donc on a reçu officiellement le courrier du président Mesquida, du département, qui à la fois nous demande... Alors on avait déjà, quand le conseil départemental a fait son dossier de dérogation, on avait déjà mis une lettre de principe, comme quoi on était prêt à examiner. Et donc là maintenant, pour pouvoir avancer, il faut qu'on acte le fait qu'on est d'accord pour faire ce bail emphytéotique et pour accepter le bâtiment. Gratuitement. Alors, ce ne sera pas totalement gratuit, il y aura des frais de notaire qui seront à notre charge de 6 000 euros. Et voilà, et qu'on est en train de voir un montage avec les preneurs, il y aura sûrement plusieurs, qui fassent que les preneurs prennent en charge le maximum de travaux.
Travaux à faire.
En fonction de leur activité, mais que ce soit eux qui les fassent, ces travaux, parce que ça les intéresse en plus, plutôt que ce soit la collectivité qui fasse les travaux et répercuter après les coûts. Nous, on est. Les preneurs, souvent, font de l'autoconstruction et tout, ça leur revient moins
cher. D'un côté, j'ai fait tout relever.
Voilà, donc on est là-dedans. Il y a une question de l'assainissement qui est importante. Oui. Donc, mais on est.
Sinon, le bâtiment est quand même sain.
Le bâtiment
quand
est
très sain. C'est sain. Il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est.
Il est de très bonne qualité.
Oui, puis c'est oui. Chouette.
On avait des craintes. On avait des craintes sur le financement des opérations-là. Mais en fait, on s'aperçoit que le viticulteur qui est situé à côté, c'est à la moitié du bâtiment, il aurait bien voulu l'acheter en totalité pour faire des gîtes. Et que si on doit arrêter le projet, même ne rien faire du tout, on pourra le revendre en totalité au viticulteur, ou vendre un tiers, un quart, je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien.
On a toujours une sortie de secours.
Le projet n'est pas complètement ficelé, on est d'accord. Le projet n'est pas complètement ficelé.
Non, c'est pas ce qu'on y fait dire.
Voilà. Hein. Après, de dire on le prend et on réfléchira en fonction de données supplémentaires. Et effectivement,
on a quand même déjà réfléchi.
Mais là, il fallait qu'on dise au département, oui ou non, on le prend, parce qu'ils ont fait une proposition et nous ont dit...
On ne sait pas ce qu'on y met dedans encore, on a des pistes.
On est déjà partie.
Et par contre, on a une porte de sortie. On a une porte de sortie avec...
Ça
fait un moment qu'on fait attendre le département, et là il faut quand même qu'on passe. Que c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Tant que nous n'avons pas la main sur le bâtiment, on ne peut pas avancer au niveau de l'assainissement, on ne peut pas avancer au niveau des chiffrages des travaux, on ne peut pas... Voilà. Donc c'est... On ne peut pas... Il y a des personnes qui sont prêtes... On a déjà des porteurs de projets, des apiculteurs, hein, qui installent une miellerie, qui sont qui peuvent très rapidement s'installer. Voilà. Après, il y a la question de l'assainissement qu'il faut régler, mais...
Ce qui est important dans la communication, ouais, je pense, c'est que le principe qu'on s'est fixé, c'est que cette opération d'acquisition et derrière d'exploitation, de vie du bâtiment, ne doit rien coûter. Ça, c'est un principe fort qu'on s'est donné. Et derrière, donc, tous les projets qu'on étudiera seront étudiés à la lumière de ce principe. On ne s'engagera pas dans un projet si jamais il y a des coûts pour la commune ne sont pas couverts par
soit le loyer,
conséquent, etc. Le modèle économique, il est là en réalité.
T'as l'idée, qui c'est qui fait l'assainissement?
L'idée, une fois qu'on sera propriétaire, c'est le propriétaire qui fait l'assainissement. C'est comme ça.
Ça sera de faire. Une idée du devis?
Ça va faire partie des choses qui vont être étudiées en priorité, mais s'il y a des coûts d'assainissement, ils sont forcément couverts derrière.
Dans le loyer?
Le loyer, soit par une vente partielle du bâtiment. C'est ça l'idée. On est d'accord. Alors après, dans le financement, il y aura sans doute des avances. La mairie risque de devoir avancer des travaux avant de récupérer derrière les montants.
C'est un investissement productif.
Le risque, il est juste là.
Toute petite crainte que j'avais, c'est que si on met quelqu'un et qu'on fasse ça en autoconstruction, sur l'assainissement, le risque, c'est que la personne rentre dans les lieux et dise non, mais c'est opposable au propriétaire, on le fait.
De toute façon, on n'installera personne si on n'a pas une solution d'assainissement qui fait qu'on évite la situation actuelle, qui est que l'assainissement va directement dans le risque. La situation actuelle est un scandale absolu. C'est comme ça. Il n'est pas question que la mairie cautionne ou se rende complice d'une situation qui aujourd'hui est un scandale environnemental. Aujourd'hui, voilà, le tuyau il va directement dans le lacet.
Pour les gens qui habitent là, sur ce
lieu,
le système ne fonctionne plus.
Mais juste si quelqu'un veut visiter le bâtiment, parce qu'on a été quelques-uns à le visiter, ben vous pouvez venir. Enfin, on a les clés. Donc si ça intéresse quelqu'un, on peut se regrouper à deux ou trois et aller faire une visite.
Oui, vous pouvez organiser.
Grand bâtiment, et comme ça vous vous rendez compte que le bâtiment est très sain. Et c'est immense. immense. Je pensais pas trouver ce genre de choses-là, mais c'est ça.
Bon, c'est intéressant en termes de patrimoine pour la commune. Oui, on a beaucoup parlé. Là, on a vendu le local de l'esplanade et une parcelle. On reconstitue du patrimoine. C'est aussi
c'est important.
C'est important. C'est gratuit.
Ouais.
Ça se regarde.
Presque. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres observations, questions, ou Laurent ou Alain, si vous voulez compléter? Non. Ouais. Bien, donc je demande votre position sur cette délibération. Donc l'acquisition gratuite du bâtiment des quatre pilars actuellement en propriété du département et la mise à disposition sous forme de bail emphytéotique d'une durée de 30 ans des terrains communaux au département aussi. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. On remerciera le président Mesquida, le département, mais je ne vous cache pas que ça se passe très bien avec les services. C'est un peu compliqué parce qu'on est sur plusieurs services en même temps, les routes pour la voirie, le patrimoine, l'agriculture, bon c'est un peu compliqué, mais...
Il nous remercie aussi, parce qu'on fait une concession quand même avec les
terres. J'espère qu'on doit vous remercier. En tout cas, on peut les remercier aussi. Et on passe au dernier point, c'est sur la modification de PLU.
Troisième modification du PLU. Donc, je vous resitue...
Tu l'as allumé là?
Oui, c'est éteint.
C'est éteint tout seul.
C'est éteint tout seul.
Ouais, c'est bien. Bien.
Il est resté. On va attendre un peu que ça revienne. Le préparateur, il faut l'enchaîner. Donc je vous resitue, vous connaissez tous, hein, l'emprise du lotissement de Saint-Ligny, il y a une partie qui est séparée en deux par la route départementale, la route de Saint-Georges, qui fait qu'il y a deux documents d'urbanisme qui sont à traiter séparément. Une partie nord qui, elle, a été réglée, qui est en route, et une partie sud. Ce sont des secteurs qui étaient classés en zone constructible non ouverte à l'urbanisation, sauf modification du PLU. Donc nous avons fait en 2016-2017, une première modification du PLU qui a été approuvée en janvier 2017 par le conseil métropolitain, qui portait donc sur l'organisation de ces deux secteurs. Cette modification était celle-ci, car en fait, on modifie le PLU, mais on met des orientations d'aménagement, des OAP, qui vont définir les grands axes qu'on impose à l'aménageur. Donc ce qui a été défini pour le Nord, ça a été arrêté, ça a été fait. C'est ce qui est en train de se démarrer maintenant. Par contre, pour la partie sud, on avait prévu une zone qui était rachurée ici, qui était le secteur qui était réservé pour l'implantation de l'équipement public et le fonds de retraite. Or, il se trouve que les négociations entre Cap Santé et GL ont eu du mal à déboucher et que finalement, on a appris que Cap Santé reporté à une date ultérieure et sinédiée même, son projet de délocalisation de l'EHPAD de Muriel sur ce terrain-là. Donc nous avons fait un courrier au président de Cap Santé, Armin Garbi, où il comprenait acte de sa décision d'abandonner ce projet, mais qu'on restait à sa disposition s'il voulait délocaliser Cap Santé pour la conservation de Muriel, et comptait du coup un endroit où l'implanter. Mais par contre, dans la mesure où on supprimait de cette OAP qui avait été approuvée en janvier 2017, on supprimait notre retraite, il fallait la remplacer par quelque chose, donc il fallait refaire une loi, une nouvelle modification du PLU pour prendre en compte cet abandon de ce secteur, de ce secteur-là, sans toucher à la partie nord qui, elle, ne bouge pas. Donc on a retravaillé avec l'aménageur pour vous proposer cette modification-là. En fait, on retrouve à peu près le même grand principe qu'on avait arrêté, c'est-à-dire les maisons de retraite. On la remplace par des maisons individuelles. Dans l'OAP, on ne précise pas la nature de ces maisons individuelles pour ne pas se faire en plus s'enfermer par la suite. Notamment, il y aura du collectif, il n'y aura pas de collectif, il y aura une maison individuelle, il y aura du social, la question de la propriété, d'habitat groupé, d'habitat participatif, tout ça c'est possible de le faire dans cet espace-là. On a rajouté faire une voie qui débouche au droit de la rue des Clauses pour pouvoir desservir l'ensemble de ce quartier-là. On a maintenu le parking paysager ici, qui sera peut-être un peu qui sera moins important que ce qu'il était initialement, puisqu'on n'a pas à faire stationner les visiteurs de la maison de retraite, le personnel de la maison de retraite, qu'on aura des places de parking individuelles pour chacune des habitations qui seront ici, et qu'on conserve cette mutualisation avec la possibilité pour les visiteurs de ce secteur-là de se garer ici, ainsi que pour ceux qui viennent du village où la carte coopérative peut être aménagée, de pouvoir stationner ici. On a aussi réduit la hauteur, parce qu'on avait mis la maison de retraite, était un bâtiment qui devait faire R+2 plus attique. On est revenu à maintenant R+1, c'est-à-dire qu'on a les mêmes caractéristiques, les mêmes couleurs que le secteur ici. Donc voilà ce que dit cette troisième modification.
Je marque une trait vert sur le comme le bois qui descend.
Ici
En dessous.
Ça
Ça,
c'est la partie. Ça, c'est de montrer qu'il devrait y avoir dans l'aménagement la réservation d'un passage, d'un accès aux espaces naturels qui sont ici. D'autant plus que, comme GGL a acheté la totalité de la parcelle qui est ici, elle est plus grande que la partie qui sera construite. Donc il va rester un espace naturel en dessous, la petite pointe là. Oui, dans ce point-là, qui va permettre aussi aux habitants participatifs de pouvoir éventuellement développer des jardins, etc. Donc le but de cette voie-là, c'est bien de pouvoir assurer un lien et ne pas avoir des maisons entre deux occupées par une voie, un lien entre la place, donc toute la partie nord, et
c'est une transparence piétonne, hein, enfin un piétonne.
C'est pas
le local technique, c'est non constructible.
C'est non constructible, voilà.
C'est bien, c'est
tout
pas
ça, c'est non constructible. Hein.
Attention, il faut enclaver là. Les parcelles en dessous.
La parcelle en dessous qui est là. Mais elle va être servie par la roue des vitres là.
Ah, il y a un ruisseau.
Il y a un ruisseau.
Bah oui, il y a un ruisseau là-bas.
Donc il y a un ruisseau, donc si tu n'as pas d'accès, tu enclaves la parcelle.
Mais les parcelles qui sont en dessous de ce côté-ci sont desservies par ce côté-là, par la roue des vitres.
Jusqu'au ruisseau.
La parcelle.
Mais pas sur le ruisseau. Hein.
Non, mais tu as une barrière avec le ruisseau en deux. Donc tu peux desservir d'un côté et de l'autre.
Mais c'est une barrière. Tu ne peux pas enlever cette parcelle-là. Là, tu as le ruisseau, tu ne peux pas y accéder.
Oui, mais cette parcelle-là, elle s'est jugée propriétaire. Pas en totalité.
Cette parcelle-là, c'est à ma grand-mère.
Et la partie-là qui est propriétaire depuis la partie
en dessous. C'est ce que j'ai dit. Tu as raison de faire en clair.
Quand
une question, Alain, j'aimerais bien savoir pourquoi tu appelles ça ce jardin paysager. Pourquoi ce terme paysager?
Pour moi, un parking qui sera
des arbres.
Non, ce ne sera pas un parking qui sera
des arbres.
Parce qu'il peut y avoir des arbres et tout ça.
Et puis j'aimerais, il y a des places blanches.
Il y aura des parcs, des aménagements,
des gazons.
Non, mais il y aura peut-être des emplacements qui sont limités.
Et puis, pas imperméabilisé.
D'accord.
Mais alors, comment ça se fait qu'ils
ont... Mais quand même.
Ah non, ce sera but de décoffrage. Il va falloir prendre son 4x4, son SUV.
Oh non, mais
vas-y,
je veux dire, tu as vu le 4x4 qui est là. Non, c'est la première fois que
je vois
ce dame à côté parking. C'est
pour
ça, j'avais...
Oh, c'est une histoire. C'est dans l'OAP, c'est quand même dans l'OAP. Ça veut dire que ce n'est pas un parking de Carrefour.
Ah oui, oui, au secours. Très bien.
Enfin, moi, je voulais dire un truc,
c'est
100% contre ce truc-là, parce que là, on fait... Là, le bénéfice que fait GGL en faisant ça, ils se payent tout le foncier de l'opération. En faisant ça, ils ont le jackpot, ils se payent tout le foncier de l'opération. Et nous, on perd le parking. Parce que quand vous regardez l'image de gauche, regardez un peu le parking. Non, parce que le parking, là, il est bidon, hein, le parking. D'ailleurs, le permis d'aménager qu'ils ont déposé, Alain, il n'y a plus de parking. Hein.
Okay.
Le permis qu'ils avaient déposé,
Non, mais ils vont redonner un autre,
mais franchement,
oui,
moi je vois pas ce qu'on gagne. On leur fait un cadeau d'enfer. Moi je vous le dis, hein.
c'est évident,
parce que là, ils gagnent. Écoute, moi je vais te dire, ils vont faire 1,8 million de chiffre d'affaires de plus en faisant ça. D'accord ? Et nous, on gagne quoi ? On gagne rien, quoi. Ou alors, je sais pas, mais ou alors il y a une compensation ailleurs que je connais pas. Mais pour moi, on leur fait un cadeau. Non, mais la compensation, ça peut être par exemple, il y a 3000 m² qu'on vous laisse quelque part à 10 euros le mètre carré. Et voilà, c'est ça une compensation.
C'est uniquement cette histoire de parking là.
Mais en fait, regarde, il y avait le parking à créer. Regarde l'emprise du parking. D'accord ? À gauche. À droite. À droite, déjà, tu peux enlever toute la partie qui est derrière le pointillé parce qu'on est en zone rouge. Tu n'as pas le droit de faire un parking. Ou alors, tu fais un parking avec des sirènes, avec des parce que tu n'as pas le droit de garer des voitures en zone rouge. D'accord ? Donc, déjà, tu l'enlèves. Bien là, il va rester quoi ? Il va rester que dalle. Et moi, je veux dire qu'à la sortie...
Il va rester 50 places de parking.
Non, il ne reste pas 50 places.
Attends, tu ne peux pas le calculer par rapport à ça ? C'est une indication.
Moi, je pense qu'il faudrait que ça soit...
Il y aura 50 places de parking.
Moi, je pense qu'il faudrait que ça soit noté... Et que ça soit un parking qui va être public.
Public. Ouais.
D'accord.
Public.
Ben, moi, je pense qu'il faudrait que ça soit.
C'est une place par rapport à un cellulaire, mais l'autre, le grand.
Ah ben le grand.
Combien il y a de place ?
Ah ben.
On l'avait fait grand parce qu'il y avait toute la partie EHPAD.
Il y avait
toute la partie EHPAD. Il faut pas qu'on oublie quand même que si un jour on fait un projet sur la. Sur la cave coopérative, quand on a plus de parking, c'est pas dans les jardins, hein, dans la coulée verte pour en faire des stationnements.
Et... Un petit peu, mais pas beaucoup.
Non, mais ouais, c'est epsilon. Je veux dire, si on fait un projet un peu d'envergure.
Mais on exclut tous les cas hein, d'ici.
Ben, vous êtes d'accord avec moi quand même qu'il faut un drôle de bénéfice, là, quand même.
Ah ben, il faut
Je suis d'accord. Moi, je vous dis qu'il se paye tout le français
Mais le but, de ce projet-là, c'est pas d'empêcher le GGL de faire du bénéfice.
Non, mais je veux pas empêcher. Mais je pense qu'on a le pouvoir de négocier. Mmh. Hein. La seule bonne chose, on en avait parlé au préalable, c'est que le R+3, parce que c'est R+2 plus actif, c'est R+3, il a disparu. Et ça, c'est... Franchement, on s'est enlevé les
signes du pied. Qu'on comprenne bien, Gilles, ta logique. Ici, c'est un bassin de rétention, d'accord ? Il n'est pas figuré, mais il est ici, et il est toujours ici, il est toujours au même endroit, d'accord ? Donc, en fait, par rapport à ici, il y a une extension du jaune.
Enfin, j'ai vu leur plan quand même, Isabelle, le plan qu'ils ont déposé en mairie, il y a des bâtiments à droite, il y a des bâtiments à gauche, il y a 18 villes à gauche, et il y a des bâtiments R+1 à droite, en intermédiaire, c'est tartiné.
C'est l'ancien.
Mais c'est l'ancien. Il n'y a pas eu de nouveau permis d'aménager.
Ouais, mais moi, avec ça, si tu veux, même l'ancien...
Je finis ma question pour bien comprendre.
Ouais.
Ta logique, pour bien comprendre ce qu'il faut. C'est-à-dire que, ici, bon, la partie construite s'étend, on est d'accord ? Par rapport à ici, mais s'arrêtait là.
Oui.
Elle s'étend, on va dire, comme ça.
Ben,
mais,
s'étend, oui.
Sauf que là, la partie qui était réservée pour l'EHPAD... C'était du R+2 plus attique.
Tout à fait. Sauf que tu vendais le terrain combien ? On en a parlé du prix du terrain. Tu te rappelles la négociation du prix du foncier ? C'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais c'était que dalle du mètre carré.
Oh,
alors que là, les lots, ça va être du 300. Ça va être du 300, entre 300 et 400 euros le mètre carré de terrain.
Là, à la revente ?
Ben oui.
Il y a plus de 300.
Ouais, mais imaginons qu'il y ait du social, machin, truc. Et bon.
Mais il faudrait qu'on ait les moyens de refaire le bilan économique à leur place.
Le parking, il fait 600 mètres carrés, il y a 42 places maximum.
Le mètre carré social pour l'EHPAD, tel qu'il avait été proposé par la métropole, c'était
195 euros
du mètre carré.
Du mètre carré terrain.
Nous, on a raisonné qu'en terrain.
Bon, mais 195 euros du mètre carré de terrain. Eh bien, il faudrait prendre l'emprise de qui était destinée à la maison de retraite.
Moi, ce que je comprends, Gilles, c'est qu'il faut qu'on soit plus précis sur la capacité qu'on veut du parking.
Ah ouais, parce qu'en plus, il est en partie en zone rouge,
il suffit qu'on donne une capacité. Et puis, comme ça, on
est. Ce que tu avances à la 50 places, tu ne les avances pas par hasard.
Non, c'est une opinion
Mais on peut l'inscrire chiffré, on peut demander s'il peut être. Comme ça, je veux dire, ça va, on va au-delà des.
50 places, ça fait 50 fois 25 mètres carrés. Si vous voulez calculer la surface.
14, tu passes.
Non, mais ça fait 25. Entre la voirie et le parking, on compte toujours 25 mètres carrés par place de parking.
Là, il y a 600 mètres sur le carré sur les 50 places.
Donc, si tu fais 50 fois 25, ça fait combien? 4 fois 25, ça fait
1000.
Ça fait 1250 mètres carrés. 1250 mètres carrés, ça représente quelle surface?
Moi, je ne sais pas ce qui fait un hectare.
Le terrain de Coste.
Tout le terrain fait un hectare.
Ça pourrait être un dixième de.
Mais il faudrait regarder. Mais là, franchement.
On
n'a pas trop de temps. C'est vrai que moi, je me méfie beaucoup de ces gens. Parce que. Non, mais sans déconner. Regardez Pignan. Pignan, là, moi, je n'ai rien à dire sur l'architecture de l'entrée de village. Je pense que les immeubles sont très jolis et tout. Mais franchement, on rentre dans un goulet. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Si on rentre dans un trou du lieu, hein, on est d'accord. Hein. Et sans déconner. Et ça vient d'où? Ça vient du promoteur qui densifie à outrance. Hein. Et une fois que la ZAC, elle est. Et puis les élus, ils voient que dalle. Il faut dire les choses. Ils y voient rien parce que c'est pas votre boulot. Et puis bon, qu'est-ce que tu as avec des patatoïdes comme ça? La patatoïde, regarde comme elle rit dans le ruisseau, bientôt elle va couler. Là. Tu comprends? Et c'est là qu'il faut vraiment faire gaffe.
Déjà, on va demander à ce que la patate ne soit pas dans le ruisseau. Et puis on va demander si on peut inscrire un effet.
Un
nombre de places, et puis c'est tout.
Là, après, pour avoir une notion de nombre de places.
Je ne sais pas,
je ne sais pas combien de places de parking.
Ça ne change pas.
Non, le centaine, non, il y en a, regarde, l'esplanade, sur l'esplanade actuelle, il n'y a pas 50, il y a 40. On ne va pas faire deux fois l'esplanade qui a.
Ce plan, quand même, je veux dire, il a été dessiné et déposé. Je peux même vous le projeter, si vous voulez, je l'ai sur la clé.
D'accord, mais il est abandonné.
Oui, il est abandonné, mais regarde, qui c'est qui l'a dessiné? C'est pas nous. Tu comprends? Ça veut dire que ces mecs-là, ils sont prêts. Ah, regardez, cherchez-le, le parking, là. Il n'y a pas de parking. Le bassin, là.
Il est où?
Tu me dis que tout ça, c'est un bassin. Là, c'est bâti, hein.
Non, mais attends. Là-dedans, ils ont fait là, sans avoir les éléments sur le bois sur l'eau et que le bassin de rétention.
Ça, c'est ce qui a été déposé, que c'est un mine aménagé qui est déposé en mairie.
Il a été déposé avec un bassin et
ouais, mais donc, ben oui, ben raison de plus. Ça veut dire
là,
que.
Là, il est plus, effectivement.
Ça veut dire que le bilan. Et qu'il y ait des villas là, moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein, c'est pas ça mon propos. Hein. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on tire notre épingle du jeu de cette opération-là, parce que s'ils gagnent du fric et qu'en plus ils nous foutent le parking réduit et en zone rouge, je suis désolé, battons-nous maintenant. C'est peut-être maintenant qu'il faut y attendre. Hop, ben, on a un avis mitigé, on met en stand-by. On veut une étude plus poussée sur ce secteur. Enfin, moi, c'est ce que je propose.
Il était là,
dans l'état actuel, je vote contre ce truc-là.
Oui, c'est plus bon, tout ça.
Non, mais c'est plus bon, mais ils l'ont dessiné, quand même, Alain. Mais comme quoi, ils sont...
Ils vont changer leur dessin.
Oui, on est d'accord. Mais...
Bon, est-ce que... Parce qu'il faut quand même qu'on avance, parce qu'on ne peut pas attendre. Est-ce qu'on ne peut pas convenir dans le mettre dans les observations? Parce qu'il faut quand même qu'on rende un avis pour que la métropole le traite, sinon
ce que j'ai dit, c'est la délibération qu'on va prendre aujourd'hui, ça permet de lancer la modification du PLU. C'est sur cette partie-là. Il y a une enquête publique. Après l'enquête publique, il y aura un rapport du commissaire enquêteur, il y aura une présentation au conseil métropolitain. Il y aura un vote du conseil métropolitain pour approuver cette modification. Il y aura 15 jours de publicité. Tout ça, ça va nous mener.
Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Mais là, moi, je veux dire, en deux heures, je te modifie le projet.
Ah bah, vous aussi.
Et ben voilà. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est qu'il modifie le projet en deux heures et que l'enquête publique et la validation du conseil se fassent sur un projet dont on soit sûr. Là, aujourd'hui, moi, je ne suis pas sûr du projet.
Mais le but, attends, mais le but là, n'est pas d'avoir un projet qui soit sûr.
Mais,
c'est
des OAP.
Une orientation.
Non, mais c'est des OAP.
Mais
c'est des OAP, mais le problème c'est qu'on va te dire, regardez, l'OAP, il y avait un petit parking au bout, d'accord, il n'y avait même pas le nombre de places, donc on fait ce qu'on veut, voilà.
Il n'y avait pas dans la première version non plus le nombre de places, Gilles.
Non mais donc, attends, tu as vu, Isabelle, regarde, il y a la différence entre les deux dessins quand même. Attends,
je suis bien d'accord. C'est donc, flagrant. Je suis d'accord, mais ce qu'on peut faire, ce que je vous propose, parce qu'il faut quand même qu'on lance une procédure, sinon notre calendrier... par rapport à cette modification du PLU va nous emmener dans des délais qui ne sont pas tenables par rapport à la fin du mandat et ce qu'on va laisser à l'équipe suivante. Je ne sais pas si je suis claire. Si donc il faut absolument que l'on termine proprement ce dossier. Donc ce que je propose de mettre dans l'avis du conseil, c'est que l'emplacement du parking ne soit pas à cheval sur la zone inondable, mais soit plus décalé sur la zone de l'emprise du lotissement, et que le nombre de stationnements qu'on voulait soit inscrit dans les OAP. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Parce que sinon, s'il faut qu'on refasse quelque chose, qu'on revienne en conseil municipal, on va être... Est-ce qu'on est d'accord?
On notifie notre demande, je pense que c'est...
Et on la notifie dans l'avis du conseil municipal. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus?
Oui,
Jean-Paul.
Je vais déterminer la surface du bassin d'écoulement, de rétention, je sais pas.
Bassin de rétention. Ça, c'est la loi sur l'eau qui se définit. Ça, c'est...
Il y a des critères par mètre carré imperméabilisés par la maison.
On peut pas le dresser sur une OAP, la taille de ce bassin, parce que la taille de ce bassin, il est fonction justement de des constructions qui vont être faites, des surfaces. Donc ça peut varier. On ne peut pas l'indiquer comme on l'avait pas
dit. Il y a un volume à stocker.
120 litres au mètre carré à
Donc ça, c'est un calcul savant qui est fait après, au moment que l'aménagement se fait. On ne peut pas l'anticiper avant.
Là, du coup, ça va être un gros trou, ils vont décaisser.
Non,
ça peut être sous-boirie, sur les toits, ça peut être partout. Là.
Donc, ils le font, s'ils font leur bassin, c'est ce qu'on a envers de l'autre côté. Hein.
On le fait l'autre côté, mais on le fait avec des formes très douces de l'autre côté.
On étale, on ne le fait pas profond du tout, étalé, et la porte avec des casiers qui seront réglés par des gabions en pierre, et qui seront accessibles à tout le monde. Quand ils ne sont pas en dehors.
Oui, mais je veux dire, pas un trou comme il y a à l'entrée de la rue.
Non.
Il a demandé.
Faut pas qu'on soit timide là, franchement.
Putain, on n'a pas été timide, parce qu'on aura des
futurs contrats, on en aura. Ah, mais là, enfin, je veux dire, je ne vais pas m'amuser à ça. Déjà, tu as 18 villas. 18 villas, ils vont vendre la parcelle, même 100 000 euros, ça te fait déjà. Hein.
Mais il y a plus de 18, encore plus de 18
villas. Bah, tu verras. Bah, tu verras. Alors là, je ne parlais pas avec toi.
Bon, est-ce qu'on est d'accord là-dessus?
Oui.
Demander à recentrer le parking dans le schéma, simplement la patate sur l'emprise du constructible et de mettre le nombre attendu de places de stationnement.
De places de parking publiques.
Sur le parking public.
Oui.
De places de
qui est 18, c'est. Il y a 50 places de parking paysager public.
Oui, mais que ça ne considère pas les places qu'il pourrait y avoir dans la rue.
On les vide. Non.
C'est le parking, il est marqué parking là. Donc, c'est
bien sûr. Un parking, c'est un parking.
Et bien justement, de l'avis de. Parce que si la proposition était 50.
On va reprendre le chiffre exact parce que je ne l'ai pas là. On ne devrait pas faire de bêtises parce que si on met 50 et que c'est 48 ou c'est 52 ou c'est 46, c'est un ordre de grandeur, mais...
Si on était sur des places de parking qui seraient entre les maisons...
Moyennant ces deux observations qu'on inscrit donc dans l'avis du conseil municipal, est-ce qu'il y a d'autres observations?
Moi, je retiens les logiques, mais c'est hors délib. Dire que le bilan financier est favorablement modifié pour l'IGL et qu'il y a peut-être matière à venir négocier autre chose. Après, c'est facile à dire. Hein, mais...
L'aire de covoiturage en t'en a déjà parlé. Après, on a toujours dit oui, on a une esplanade.
C'est un rond-point.
Non, mais elle peut être très bien là.
Hein,
à la sortie de Muriel, elle peut être très bien là. Elle se fait devant la carte coopérative, là.
Oui, tout à fait, tu as raison. Ouais.
On donne rendez-vous à chaque fois là.
Oui.
Ça sera peut-être ici. Oui.
Ok.
Puis à la limite, si des paysagers avec de l'evergreen, l'evergreen c'est du gazon ou des petits galets, des petits cailloux au sol, et qui ne sert pas pleinement, c'est pas dramatique, on pourra toujours planter dedans. Vaut mieux ça que de se dire un jour, on fait un bâtiment, une équipe banque publique à la carte coopérative, on ne peut pas se garer, les mecs se garent n'importe quoi.
N'oubliez quand même pas que GGL contribue pour, dans le cadre du PUC, pour créer 3 millions d'euros.
Oui, mais Alain, il contribuait pour 3 millions d'euros avec ce projet-là.
Ouais.
Là, à mon avis, il y a 1 million de plus.
Voilà. C'est ici.
Mmh. Eh ouais. Et puis, c'est leur business, ça, qu'est-ce que tu veux.
Bah oui, je sais.
C'est leur business. Non. Alors, pourquoi, à la limite, quelque part, les propriétaires fossiles ont été floués.
Oui,
tu comprends. Parce qu'on a plus d'argent, on peut aussi raisonner comme ça. Bon, ou alors ils auraient pu nous dégager une parcelle de 2000 m² pour qu'on la mette à disposition, on voulait faire des logements pour les jeunes, de l'autoconstruction, de voilà le genre de négociation qu'il faut avoir. On est pris par le temps, mais là c'était l'opportunité.
Non, mais c'est bien ce que tu dis, parce qu'il y a pas mal de pouvoir négocier avec eux aussi le prix de vente
pour l'habitat participatif. Donc moyennant, c'est deux observations qu'on a dites sur le parking. Est-ce qu'il y a d'autres observations? C'est important. Donc je passe au vote. On va inscrire ça dans l'avis. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc tu t'adoptes.
Moi je m'abstiens quand même.
Tu t'abstiens.
Ouais, parce que...
Non mais je te comprends.
Je le sens pas.
Non.
Pas facile, hein, ce dossier.
Ah, mais c'est facile.
Bien, bah écoutez, je crois que le conseil est terminé. Je vous remercie.